Saludos, Incredible Podcast. Saludos, Incredible Podcast. Saludos, Incredible Podcast.
Bonjour, bienvenue dans ce slip numéro 28. Un slip accueillant et confortable pour environ une heure et demie et suffisamment spacieux pour recevoir toute notre équipe. Semperludo.com, notre site précieux sur lequel vous retrouverez toutes sortes d'articles et tests sans précipitation, sans hâte, chill, pas besoin de précommander vos jeux. Je suis Founet et aujourd'hui pour parler de jeux vidéo, je suis accompagné de manière magistrale par le spectaculaire Plisken, qui nous donnera son avis sur le fait qu'Aya Nakamura chante au JO de Paris. Salut Plisken.
Salut. Je suis pour. J'écoute pas, mais je suis pour. Enfin, ça énerve Pascal Pro, moi je sais très bien.
tu auras tout le temps de nous en parler tout à l'heure. Le prodigieux Teiki, qui commentera le budget alloué par le Conseil fédéral à l'organisation de l'Euro de foot féminin qui doit se tenir en Suisse en 2025. Salut Teiki.
Salut, j'aime pas le foot.
Merci pour cette intervention. Et enfin, le Sémillon Météora de chez Critical Hit en face, qui nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui et qui décryptera dans un programme simple, en 15 points, la situation géopolitique en Haïti. Salut,
mais,
Météora.
Salut, mais tout à fait, alors parfaitement.
Très bien. On va
surfer.
Cool, parfait. Donc on a une heure et demie pour parler de tout ça, ça va être génial. Peut-être qu'on va parler un petit peu de jeux vidéo avant. Dans ce slip, on va faire le programme un peu habituel, c'est-à-dire qu'on va parler d'abord de jeux qui nous occupent en ce moment, de jeux auxquels vous vous adonnez, et puis on aura une partie ensuite débat, discussion, dans laquelle on va aborder nos heures de gloire, c'est-à-dire qu'on va parler du sentiment de satisfaction qu'on peut vivre quand on accomplit un haut fait dans un jeu, mais on aura tout le temps d'en discuter tout à l'heure. Pour commencer, est-ce que Plisken, tu veux commencer?
Bah pourquoi pas, tout à fait.
Très bien.
Alors,
vas-tu nous parler?
Alors, on va parler de News Tower, hein, qui est donc un petit jeu indé qu'on aurait pu rebaptiser Vie ma vie de Founet, puisqu'il est question de gérer un média.
Ah, c'est ingrat comme composition.
Il semblerait. Donc ça a été développé par Sparrow Knight, édité par Twin Sails Interactive. C'est sorti le 13 février dernier en Early Access. Mm-hmm. Donc oui, j'ai fait l'erreur de... Enfin, j'ai pas précommandé, mais je l'ai pris en Early Access. Mais il m'intriguait beaucoup.
On vous pardonne.
Bonjour. Ça va. C'est vraiment... Si je sème Perludo, alors...
Moi, c'est pour rester chez
catégorie.
Moi, je précommande pas.
J'entends rien.
Il est dispo sur PC et Mac. Et il coûte 21,99 francs, comme disent nos amis Outre-Rhône.
Tout à fait.
Et il est en anglais uniquement. Donc si vous galérez un peu avec l'anglais, attendez peut-être, je sais pas s'ils vont développer dans d'autres langues, mais enfin... Donc, la comparaison avec Founet se termine ici, parce que l'histoire commence en 1929 à Brooklyn.
Je m'en souviens.
Exactement. Vous récupérez le journal hebdomadaire de votre oncle.
Ouais.
Donc, héritage, tout ça, la gauche, grand discours là-dessus.
ça commence.
C'est ça. Et du coup, votre oncle avait apparemment des dettes envers la mafia. Donc,
ouais.
Quand vous arrivez dans le journal, tout est pété.
D'accord.
Donc, vous devez racheter le matériel, les postes de travail, engager du nouveau personnel qui ont fui pour tout un tas de raisons évidentes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment très à l'ancienne.
Ouais.
Parce que si c'était aujourd'hui, vous achèteriez 3 bureaux, 4 PC, et puis c'est réglé, roulez jeunesse. Mmh. Alors que là, il vous faut des postes de télégraphe qui vont essayer de savoir où sont les scoops en ce moment. Vous aurez des reporters qui vont faire l'enquête sur place.
Ouais.
Des typographes et des assembleurs qui s'occuperont de la mise en forme de l'article. Vous devrez également engager des concierges pour pas que ce soit trop le bordel dans vos locaux, des logisticiens qui s'occuperont de l'approvisionnement et tout, des mécanos qui répareront vos machines qui pètent au fur et à mesure. Enfin, c'est assez complet, je trouve, à ce niveau-là. Très vite fait, graphiquement, c'est vu de côté.
Oui.
On voit le bâtiment avec les différentes pièces et tout. Vous agencez le truc un peu comme vous voulez.
Ouais, excuse-moi de t'interrompre. J'avais pas du tout entendu parler de ce jeu et je viens de d'ouvrir un onglet pour voir à quoi ça ressemble. Et ça me fait penser à ce jeu Fallout Mobile, je sais plus. Shelter, merci, exactement. Vu de côté où tu as un bâtiment coupé en deux et tu gères. C'est ça, tu gères chaque pièce.
Ouais, exactement, okay, ouais. Et on peut en fait rajouter des étages à sa guise et enfin à la guise de votre budget également parce que ça coûte du pognon. Alors, vous devez gérer, par exemple, le confort de vos employés, qu'il s'agisse du bruit, de la température. Si vous mettez vos employés juste à côté de l'imprimerie, c'est pas ouf pour eux.
D'accord.
Faut installer des toilettes, parce qu'il paraît que c'est bien pour le confort des employés, des fontaines à eau et plein d'autres trucs du genre, des petites plantes.
On m'a jamais parlé de tout ça. Hein.
Ah, bah ça, on pourrait en parler.
Il y a des revendications qui arrivent, je le sens.
Autrement, bon, bah, l'essentiel du jeu, c'est de gérer les rentrées et les sorties d'argent. Vos employés gagnent des niveaux, quel que soit l'employé, enfin voilà, ces niveaux de compétences augmentent et donc faut augmenter leur salaire.
Mmh, d'accord.
Suivez mon regard.
je me sens pas très bien.
Alors il y a différents types d'articles. Vous pouvez faire des articles sur l'économie, la politique, la culture, la société, les crimes, le sport. Il y a également des bonus-malus. Hein, par exemple, si votre article est inspirant ou au contraire inquiétant, si c'est scandaleux, un peu people machin, si c'est un article de la semaine d'avant que vous publiez parce que vous avez rien de mieux.
D'accord.
Enfin, c'est tous des trucs qui peuvent augmenter ou baisser le rendement de votre journal, quoi. Oui, alors après, vous pouvez débloquer des nouveaux secteurs. En fait, votre journal sera distribué. Et du coup, le volume du lectorat est différent d'un quartier à l'autre. Mais également les sujets qu'inspirent les gens. Par exemple, si vous débloquez Wall Street, les gens seront très intéressés par l'économie.
Sans blague.
Vachement moins par le crime, parce que c'est quelque chose ils entendent parler.
C'est loin.
Dans la presse, mais c'est très lointain pour eux. Alors que, cliché, si vous prenez un petit quartier de banlieue, ils seront très intéressés par le crime et le sport.
Ok.
Parce que, voilà, cliché, tout ça. Vous pouvez aussi débloquer des relations sur la carte. Donc, au début, je crois que vous débloquez directement la mafia. Enfin, au bout de la deuxième édition, je crois. Et du coup, par exemple, eux, ce qu'ils veulent, c'est que la première semaine, par exemple, vous fassiez pas d'article sur la politique. La semaine d'après, ils veulent que vous fassiez un article sur leur concurrent. Donc, un article alarmiste sur un autre gang, histoire de mettre le pointeur sur eux. Ce qui vous octroie des bonus. Mais après, vous pouvez débloquer le poste de police, la mairie, le stade sportif. Les dockers et autres.
Mais ça veut dire que tu construis d'autres bâtiments aussi, ou c'est juste un bonus sur la police, des trucs comme ça?
Alors, non, en fait, c'est pas un nouveau bâtiment, c'est juste, par exemple, tu auras des infos de la police.
Ah, ok, c'est les relations.
Ouais, okay. Exactement. Je mélange mes feuilles, pardon. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez rajouter de nouveaux étages, ce qui peut être bien de planifier. Hein, moi, pour ma première partie, j'avais dû mettre les toilettes dans le bureau de mon oncle, parce que j'avais plus de place. Et manque de bol, fallait installer le logisticien qui avait son bureau entre les toilettes et le lavabo. Il avait pas l'air de vivre sa meilleure vie, clairement, donc c'est bien d'anticiper un petit peu le truc.
C'est assez réaliste, quand même.
Quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, du coup, ensuite, il y a toute la mise en page. Vous choisirez quel article sera l'article de tête, qui aura un bonus, puisque, ce sera le titre, en fait, du journal. Mais également, par exemple, vous pouvez avoir des bonus. Si vous mettez, par exemple, deux articles qui parlent de politique, vous aurez un espèce de bonus x2, parce que, les gens que ça intéresse, ils en auront pour leur argent. Donc voilà. Ensuite, il y a des petits frais annexes qui peuvent tomber un peu au débotté. Par exemple, vous avez plus de papier pour l'imprimerie. C'est un problème. Donc vous devrez vite racheter du papier en urgence. Si vous avez plus de thunes, c'est compliqué. Et du coup, j'ai pas eu ce problème, mais je sais même pas si le journal peut sortir s'il y a plus de papier. J'imagine que non. Ouais. Ça doit être compliqué. Vous pouvez devoir corrompre des gens au débotté. Là aussi, par exemple, vous faites une enquête sur la police, sur une enquête policière. Peut-être vous devrez lâcher 2-3 billets pour que les policiers vous laissent passer en priorité et tout. Et il y a un petit peu d'aléatoire. Quand vous faites des enquêtes, parce que justement, en fait, je suis pas allé très très loin dans le jeu pour le moment, certaines enquêtes sont un peu à tiroir. Vous faites une enquête sur un truc, mais ça peut vous amener à une autre enquête sur un sujet connexe et tout. Et en fait, il y a une espèce de cadran aléatoire avec donc une aiguille et tout et plusieurs possibilités. Et ma dernière partie, il y a la mafia qui est venue tout casser chez moi.
Sympa.
Alors, du coup, c'était un peu problématique parce que mes employés esquivant des coups de batte de baseball avaient peu le temps de se concentrer sur leur travail. Donc, on a dû sortir plein de vieux articles au lieu de nouveaux. Et du coup, je venais de faire un pacte avec le maire pour écouler 7000 papiers. Et du coup, j'en ai vendu que 3000, il n'était pas content.
Et pour les enquêtes, ça veut dire que tu... comment dire, tu dois faire des enquêtes ou bien tu t'occupes du journal et puis...
Ouais, t'envoies ton reporter puis il fait lui.
D'accord, ouais, t'as pas un système où toi tu dois enquêter.
Non, non, mais par exemple, si tu fais une enquête sur, je sais pas moi, la politique, bah, si t'as un journaliste qui est plus balèze là-dessus, c'est bien de l'envoyer lui parce que, bah, l'article sera d'autant plus complet, quoi.
Ok, mais tu fais les choix de management, quoi.
Ouais, exactement, non, tu vas pas, tu mets pas les mains dans le cambouis, quoi. Puis autrement, bon, bah, ouais, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est le concept. Mm-hmm. Que ce soit, bah, de gérer une boîte de presse et en plus dans le contexte fin des années 20, début des années 30. Il y a apparemment, là encore, je suis pas allé très très loin, mais bon, années 30, Grande Dépression. J'imagine que, enfin, d'après ce que j'ai lu, il y a pas mal d'éléments historiques, en fait, qui peuvent s'intégrer à l'enquête.
Événements.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis, bah, la direction artistique, je la trouve magnifique, quoi. Enfin, c'est tout vu en 2D, c'est très stylisé, quoi.
Ouais.
Ouais, ça a l'air joli. J'ai regardé, effectivement, ça ressemble un peu à Shelters. Mm-hmm. Il y a des gens, par contre, qui sont coincés au boulot, quoi.
Ouais. C'est pas pareil dans Fallout.
Mais c'est très joli, ouais.
Donc, du coup, voilà, moi, je recommande, après, peut-être 21 francs 99, c'est peut-être un peu cher, j'en sais rien. Enfin, après, ça dépend, parce que bah, le jeu est en early access, donc ça peut beaucoup évoluer et tout. Ouais. Mais en tout cas, s'il est en solde, puis que ça vous intéresse, moi, je vous le conseille, il est vraiment plutôt cool à jouer, quoi.
Et du coup, l'early access, enfin, ça, qu'est-ce qu'il n'y a pas encore, par exemple, dans le jeu, puisque c'est une early access? Est-ce que tu entrevois un futur avec plein de mises à jour là-dessus, ou bien finalement c'est juste un peu encore du peaufinage, le jeu est presque en version finale?
Bah, c'est dur à dire, mais là ils viennent de faire une mise à jour pour ajouter le mode sans fin.
Ok.
Donc je pense, en fait, très dur à dire, quoi. Développer un potentiel incroyable, comme ça peut juste être du peaufinage.
Le jeu est stable, il est jouable parfaitement. Je veux dire, c'est pas. Parce que t'as des early access ou encore c'est. Voilà, c'est buggé, et puis en fait, tu t'amuses à faire la chasse aux bugs et à les reporter, quoi.
Ouais, non, alors là, le jeu, il tourne parfaitement, quoi.
Ok.
Cool. Et comment tu l'as découvert, ce jeu?
C'était le camarade Dinoïc, que je salue, qui avait posté ça sur Discord. C'était un top 10 des jeux indépendants à venir.
Ok.
Et c'est vraiment celui qui m'avait hypé de fou. Je l'avais mis dans ma liste de souhaits, puis il est sorti une semaine après, puis je suis dit, bon, allez. On teste, c'est intriguant comme concept, quoi.
Et sur Steam, hein.
Oui, sur Steam. Je sais pas s'il est sur GOG aussi, je suis pas sûr. En tout cas, sur Steam, de sûr.
Ouais. C'est vrai que vous jouez à des trucs bizarres. La dernière fois, la gestion de train, maintenant. Ouais.
Ouais, moi, j'aime bien les jeux à concept, quoi. Ouais,
c'est perturbant.
Il n'y a pas de loot.
Je connais des gens qui jouent à des jeux de voiture dans la boue et puis ils transportent des
j'en ai entendu parler
des palettes, tu vois.
Oh, on en connaît un.
C'est une rumeur. On ne peut ni infirmer ni confirmer. Ok, mais ouais, à part ça, c'est intéressant parce que tu parlais de l'early access. Moi, j'ai tendance à dire que si c'est un petit studio, ça peut être intéressant de les soutenir en faisant de l'early access. Quand je critique l'early access, c'est surtout chez les gros studios qui, après, font traîner leurs jeux.
Tu veux dire qu'ils n'ont pas besoin de soutien?
Par exemple.
C'est salaud, un peu, je crois.
Ah, oui, c'est vrai. C'est favorite.
Et les bons et les mauvais soutiens.
C'est ça. Exactement. Mais tu sais ce qu'ils ont fait d'autre, par hasard
Non, j'ai vu qu'il y avait un bundle sur Steam, mais l'autre jeu ne me disait rien du tout.
Ouais, ça a l'air d'être un jeu de voiture.
D'accord.
Du tout.
Ok.
C'est
ouais. C'est vrai qu'ils ont fait un triple A avant et...
Ah, ouais, ok. D'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a une fin? C'est-à-dire, tu peux...
J'imagine que oui, puisqu'ils ont sorti un mode sans fin. J'en suis clairement pas là, quoi, pour le coup. Mais oui, ça a l'air qu'il y a tout un scénario, enfin... Donc, à voir.
Cool. Et puis, est-ce que tu as l'impression que c'est... comment on pourrait dire, un peu rigide comme approche, ou bien c'est fluide? Est-ce que l'interface, parce que je vois qu'il y a des trucs qui clignotent un peu partout là, est-ce que tu as l'impression que c'est difficile à suivre ou bien c'est assez intuitif?
Mais c'est à la fois intuitif parce qu'il y a plein de trucs qui vont un peu de soi, mais il y a aussi des trucs où tu comprends pas bien du premier coup où ils veulent en venir. Moi je comprends bien l'anglais, mais il y a des fois où il y a des mots assez techniques.
Ouais.
T'es là, genre, je vais googler parce que je suis pas sûr. Pardon.
Bat de baseball, ça se dit la même chose. Hein.
Voilà, bat de baseball, ce genre de choses. Non, justement, il y a plein de trucs très intuitifs, puis d'autres trucs qui le sont moins. Par exemple, quand tu dois remplacer ton imprimerie, il faut savoir où mettre les pièces, et puis ça va pas forcément de soi. Ouais. Bon, il y a une version, pas tuto, mais enfin, avec une dame qui travaillait pour ton oncle, qui t'explique où faut mettre les machins, et enfin, ce qui t'aide un peu à comprendre le truc. Mais si tu te lances une partie endless du premier coup, je pense qu'il y a moyen d'avoir des surprises, quoi.
Ouais, d'accord.
Et le niveau de complexité, je sais pas, entre partant de Theme Park à Crusader Kings.
Cette échelle.
Ouais, je sais pas, j'irais jusqu'à dire que c'est pas hyper complexe dans la mesure où, ouais, vraiment, enfin, faut faire tes articles, ils t'expliquent, enfin, tu vois, il y a des partenariats que tu peux faire, tu sais un peu à chaque édition ce que tu dois faire. Mais par contre, il n'y a pas un côté où, genre, tu dis, ah, bah, il y a la formule, je fais ça chaque semaine, et puis mon journal, il va se vendre, quoi. Ça dépend vraiment des partenariats que t'as, ouais, du nouveau quartier que t'essayes de débloquer.
Tu dois t'adapter, quand même, aux circonstances. Ouais. Mais il n'y a pas l'air d'avoir 5 milliards d'éléments non plus.
Mais en fait, il y a plein de petits bonus, justement, comme je disais, par exemple, des articles inspirants. Genre, tu fais un article sur le maire qui a gagné l'élection, bah, c'est inspirant pour les gens. Puis ça peut être un truc qui peut être intéressant à débloquer dans le quartier où tu viens d'aller. Mais si le truc sort quand t'as pas débloqué ce quartier, bah, t'y gagnes pas forcément grand chose.
Okay.
Donc, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a de l'aléatoire. J'en sais rien. Peut-être si tu fais 10 000 parties, tu sais dans quel ordre apparaissent les éléments. Mais autrement, quand tu joues au début, ça peut être surprenant. Puis t'as côté là, ah, mais mince, si j'avais su, j'aurais pas fait ça dans cet ordre.
Ouais. Ouais, ça a l'air cool.
Ouais. Ok, donc bonne recommandation. Sympa. Est-ce que tu as des choses à rajouter encore ?
Non, bah, à tester pour ceux que ça intéresse, quoi. Et puis, ouais.
Est-ce qu'il y a Aya Nakamura dans le jeu ?
Il n'y a pas Aya Nakamura, ce qui est un gros moins. Ouais. Quand même.
C'est ça.
Disons-le.
Bon, bah voilà, tant pis. Moins 2 points. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres questions, messieurs ?
Je ne crois pas.
C'est bon.
Je ne crois pas.
Pas de questions, votre honneur, c'est bien. Très bien, alors on va justement pouvoir passer à toi, Taiki.
Bonjour.
Bonjour. Donc tu veux nous parler d'un jeu qui est hyper récent, c'est ça qui vient
extrêmement sortir. Récent, ouais. Extrêmement récent. Le dernier From Software. non, un vieux jeu. Enfin, vieux. J'avoue que je ne sais même pas quand. Je n'ai pas du tout fait mes devoirs. Je me suis dit, c'est tellement connu que il n'y a pas besoin.
Ouais. Donc... Je vous ai entendu d'ailleurs le mois passé. Hein. Personne n'était préparé. On dit, oui, j'ai ouvert la page Wikipédia. Etc. C'est n'importe quoi.
mais c'est comme ça qu'on a préparé les choses. Ouais.
Ah, d'accord.
Dans la tête.
Non, très bien, très bien. Donc,
Sekiro.
Sekiro.
Shadow Dies Twice, truc comme ça. Ce qui est un mensonge, hein, parce que tu meurs bien plus que 2 fois.
Je connais même pas le titre du jeu.
Non, okay, on en est là.
Non, on en est là.
J'ai pas osé relever.
Est-ce que vous connaissez le sous-titre de tous les jeux? Bon, tout le monde voit à peu près ce que c'est Sekiro, je pense. Donc, From Software, les papas des Souls-like et autres Bloodborne et Elden Ring, que tout le monde connaît maintenant. Maintenant, tu peux plus y échapper. Donc, voilà, ça devient du méga mainstream.
Ouais.
Mais donc j'adore ces jeux de From Software. Je suis un gros consommateur, mais j'avais jamais fait Sekiro. Je l'avais acheté il y a un moment de ça. Là, je me suis dit, allez, je me relance, je vais essayer en attendant de faire Final Fantasy. Mm-hmm. Je fais une petite pause, un peu de gameplay avant de passer.
Et vite fait Sekiro.
Vite fait Sekiro, exactement. Et puis bon, c'est trop bon, franchement. Mm-hmm. Et un truc qui me choquait pas mal, c'est la qualité. Alors, je sais pas s'il faut dire des graphismes ou la direction artistique, mais ça claque tellement. C'est impressionnant. Là, je joue sur PS5, mais je crois qu'ils ont juste fait un patch pour que ça soit en 60 FPS. Mm-hmm. Mais sinon, c'est le même jeu. Le concept, c'est du combat, donc à la forme software habituelle, dans le sens où tu meurs beaucoup, c'est très difficile. Mais par contre, les mécaniques de combat sont assez différentes. Et ça, j'apprends. Je suis au début, hein, pour être... complètement transparent, j'ai battu un boss.
Oui, yeah.
Qui pourra faire partie de mes heures de gloire, dont on parlera après,
d'ailleurs. Très bien.
Parce qu'à chaque fois, tu, ouais, tu toules le champagne. Et puis, je suis au deuxième boss, je crois, à peu près. Et il y a plein de trucs dans ces jeux qui me manquaient des jeux From Software, dont l'exploration enfin, le level design, quoi, qui est quand même complètement dingue, je trouve. T'as des recoins partout, ça paraît naturel, c'est vraiment trop bien fait. Il y a un truc très, le mot me manque, pas écologique, mais enfin un truc
organique.
Organique, merci, exactement. C'est le terme technique que je cherchais, qui est vraiment bluffant. Et puis avec toujours ces univers un peu cryptiques où tu sais ce qui se passe, mais pas vraiment. Puis il y a toujours des trucs mystiques, glauques qui veulent tuer tout le monde. Là, dans une ambiance Japon médiéval, assez classique si on veut bien. Mais de nouveau avec une ambiance qui est incroyable et un système de combat, donc pour y revenir, qui est un peu spécial, où tu dois faire beaucoup de parades donc de timer tes parades. Et puis, ça, si je me souviens bien, c'était une critique. Je ne sais pas si vous aviez joué à l'époque.
Non, ou... pas du tout.
Non. Okay, donc je suis... okay.
Le précurseur, là.
Ouais, on est bon. Hein. Il y a un truc où c'est récompensé d'être très, très agressif. Ah. Et donc, en fait, tu dois vraiment, tu ne laisses pas respirer l'ennemi.
Ouais, ce qui est l'inverse de d'habitude où tu fais roulade, roulade, esquive.
Bah justement, moi, je me suis un peu fait prendre à mes habitudes, vu que j'ai fait beaucoup de foam software, je fais beaucoup de roulade, roulade, esquive, machin. Ouais. Et puis, alors, tu peux t'en sortir, mais c'est beaucoup moins efficace. Mm-hmm. Enfin, tu peux t'en sortir, en tout cas, jusqu'où je suis. Et là, tu dois vraiment avoir un truc où, en fait, tu as une espèce de jauge de, qui s'appelle de posture, où tu peux bloquer, 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 puis au bout d'un moment, bah, ça pète. Alors, soit tu fais tes timings parfaits, puis là, ça tu peux continuer à déterner, mais bon, faut, pour faire des timings parfaits tout le temps, faut...
Tu dois parer au bon moment à chaque fois.
Ouais, ça, ouais, okay. Exactement. Soit parer, soit faire une esquive, puis là, tu fais une espèce de parade spéciale pour certains coups.
Ouais, ok.
Ou des sauts pour sauter par-dessus l'attaque. Puis évidemment, chaque ennemi, enfin, surtout les boss, c'est une espèce de... Ah, c'est un peu du papier caillou-ciseaux, quoi, mm-hmm. d'une certaine manière, mm-hmm. Avec des patterns qui changent, etc. Mais entre deux, faut continuer à maraver la gueule du boss pour que sa jauge de posture elle augmente jusqu'à que la posture casse, et là tu peux lui faire une sorte d'assassinat.
Ouais.
Et tu lui enlèves une barre de vie. Et en fait, en gros, si tu fais que esquiver comme à l'ancienne, comme quand tu sais pas, c'est-à-dire que tu dois enlever toute la vie, ouais, par petit coup, et des fois ça prend des plombes parce que c'est pas fait pour. Ah, en fait, t'es ouais. censé lui faire péter sa garde pour pouvoir enlever la barre de vie d'un coup.
Ouais.
Et le jeu te le dit pas, en fait. À la From Software, c'est bon, bah tiens, un jeu.
Non, c'est entre deux.
Ok.
Il y a quand même une espèce de vague tutoriel au début où t'expliques deux, trois trucs, mais sans forcément appuyer tout de suite à quel point ça va changer la donne de jouer d'une façon ou de l'autre. Tu sais, tu le découvres quand même un peu sur les premiers mini-boss ou. Du coup, t'es là, mais ça va prendre 8 ans si je continue comme ça. T'en fais un comme ça. voilà. T'es un peu persévérant de la mauvaise façon. Et puis après, d'un coup, t'arrives gentiment à faire les bons trucs avec celui d'après. T'es là, mais en fait.
Mais c'était ça.
C'était ça, exactement.
Je sais plus si tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est un univers japonais.
Médiéval, ouais.
Mais japonais médiéval. Et est-ce que c'est un monde totalement ouvert? Du coup, tu peux. Non, ok.
Non. C'est... Bon, je sais pas comment on le catégorise. Tu peux passer d'un bout de la map à l'autre où il y a des. Non, c'est des mondes fermés, mais que tu peux refaire plusieurs fois à la From Software, ou soit tu ouvres des passages, tu reviens au. Là, c'est une espèce de statue quand tu meurs qui fait repopper tous les ennemis. Mm-hmm. Mais non, c'est pas un monde ouvert.
Ok.
Il y a un peu cette impression parce que tu peux aller où tu veux d'un endroit à l'autre. Mm-hmm. Ouais, donc c'est vraiment super bien, c'est franchement bien, bien, bien dur. Puis il y a des moments où tu poses la manette, tu dis ok, je vais arrêter un moment.
Je fais de ma vie.
C'est notre ami Gary, que je salue, qui a parcouru tout le jeu et est arrivé au dernier boss. Il a essayé, puis il a dit c'est bon, j'arrête, j'ai fini le jeu. Okay, ouais. J'ai fini le jeu, voilà. Pour moi, c'est ça. Il savait qu'il n'arriverait pas à battre ce boss.
Ouais.
Et donc il a arrêté. Il a arrêté Sekiro juste avant, quoi. Juste avant.
Ok, ouais, je me réjouis.
Voilà, curieux de savoir. Ouais, c'est pas très Gary, en fait. Parce
non,
que,
pas très, ouais.
Voilà, mais il a accepté sa défaite.
Ouais, c'est ça, c'est la défaite
noire. Ouais.
Mais je peux comprendre, parce que c'est vrai que là, moi, ça fait un moment que je jouais pas à des jeux autant durs ou autant...
Exigeant.
Ouais, exigeant. Puis il y a un truc, là, particulièrement, mais je pense que c'était la même chose dans Bloodborne ou les autres, mais... Quand tu fais un boss, tu dois rester dans un état de concentration complète pendant vraiment longtemps. En fait, t'as genre là, le boss où je suis, qui est un des premiers, t'as deux barres de vie, où déjà tu dois être vraiment bien focus, puis après il a phase 2, mm-hmm. où il arrive et là c'est fantastique, il a des éclairs, des machins, des trucs, du bordel, puis en fait t'as déjà tout un temps à faire pour passer à la phase 2, t'as peu de temps où t'apprends la phase 2, et puis c'est quand même un peu moi là je le prends un peu comme ça, je me dis bah je vais continuer, je vais prendre ça comme je verrai bien jusqu'où j'arrive, mm-hmm. si j'arrive pas mais par contre une fois que t'es dans le flow du combat c'est pas mal,
ouais.
C'est pas mal, c'est assez jouitif pour le coup.
T'as pas fait Elden Ring, hein, du coup?
Si
tu l'as fait.
Si, okay, si. Ouais. Ouais, ouais.
Parce que du coup il y a cette similarité dans le flow enfin, dans ton premier run, je dis, parce que quand tu apprends le jeu, les mécaniques du jeu, justement, tu arrives face à des boss où, en fait, tu galères à passer la phase 1 et quand t'arrives enfin, t'as la phase 2 et, ah, et là, tu te fais one shot et tu dois recommencer. Et puis, en fait,
c'est lourd. Hein,
t'apprends jamais, bah, t'apprends pas la phase 2, quoi. Parce que tu dois chaque fois refaire la phase 1 du boss. Et puis, des fois, t'as même une troisième phase. Moi, c'est assez rare. Mm-hmm. Mais effectivement, là, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, t'es dans cet état de transe un peu, mais qui est assez jouissif, en fait. Parce qu'une fois que tu arrives, t'es là, ah ouais, c'est un feeling est top, quoi. Enfin, on parlera d'achievement après, mais il y a vraiment ce côté.
C'est un côté immersif, presque, tellement t'es.
Ouais,
Ça mène vraiment à ça.
Mais pourquoi les boss, ils ont deux phases? Les mecs.
Ça t'aime pas, hein.
Ben non, parce qu'il a une phase plus puissante. Pourquoi il se dit, oh, d'abord, je me le fais avec la petite phase, tu vois?
Avez-vous entendu parler de Dragon Ball Z?
C'est exactement ça. Il vient direct avec la phase finale, non?
Mais tu sais pas, peut-être que ça lui coûte d'être dans sa phase finale. Peut-être
que. J'ai besoin de savoir. Quelles sont ses motivations?
La gloire. La gloire. Genre, j'ai battu le héros en phase 1.
Oui, c'est vrai.
Ça marche chez les méchants aussi.
Dans Elden Ring, il y a un boss, enfin, le premier gros boss, enfin, c'est le deuxième boss, on va dire, du jeu.
Ouais.
Il a une deuxième phase, mais c'est mis en scène. En fait, le boss, parce que tu l'as tapé suffisamment longtemps, et en fait, il est blessé au bras, il se coupe le bras, et il va vers un dragon, en fait, vers la tête d'un dragon qui est sur une pique, et en fait, il prend la tête de dragon, et il se le colle à la place du bras, et puis en fait, il crache du feu. Et donc, en fait, c'est sa phase 2, elle est plus puissante, mais il a dû perdre un bras, tu vois.
Ouais.
Et il y a une synergie entre la phase 1 et la phase 2, c'est toi qui lui afflige la blessure. Et ça, c'est assez bien foutu. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Pourquoi?
Et donc, Founé, c'est plus cohérent pour toi un type qui se colle une tête de dragon sur le bras que quelqu'un qui s'énerve parce qu'il est en train de se faire maraver?
Oui, parce qu'il y a une explication. L'émotion, tout ça, ça compte pas.
Sinon, que dire? La maniabilité est complètement dingue, je trouve. Et c'est assez marrant parce que je trouve que par rapport à d'autres From Software où ton personnage, il est un petit peu, je sais pas comment dire ça. C'est comme un Tekken ou un Mortal Kombat. Ton personnage, il est un peu quand même
rigide.
Un peu rigide, ouais. Enfin, c'est peut-être dur de dire ça, mais tu te rappelles pas forcément de ça en premier. Et là, le personnage est tellement agile et puis t'as un système de grappin qui est dingue pour le coup. Ça, c'est un gros gros plaisir. Au point que c'est, je trouve, le plus gros plaisir du jeu.
Le grappin.
Le gameplay.
Ah, le tout. Ouais.
Vraiment le gameplay général. Et puis voilà, ouais, vraiment très 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 bonne redécouverte. Alors c'est pas une surprise, hein. Je crois qu'il a gagné un Game of the Year l'année où il est sorti.
2019 d'ailleurs.
2019, ouais. 5 ans, ouais, merci. Ouais.
Je pensais que c'était plus vieux que ça.
Ouais, moi aussi, alors j'aurais pensé plus.
C'est vitesse.
Bah, Covid et tout, voilà.
Tout fout le camp.
Tout fout le camp. Tu peux plus rien dire.
Non, bah, c'est ça.
Et ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre à part que c'est extrêmement bien, c'est un peu différent. Et je peux imaginer qu'au bout d'un moment, tout à coup, t'en as marre quand même si tu bloques trop longtemps sur certains trucs. La mise en scène, c'est fantastique, hein, y a vraiment des éléments surnaturels très très poussés. Et dingue aussi, je peux spoiler, c'est tellement vieux. Il y a un moment, t'arrives dans une espèce de... Comment on va dire ça de... Le mot me manque. Un canyon, on va dire, quelque chose de similaire. Ouais. Et t'as un espèce de serpent géant gigantesque qui arrive, mais qui est pas du tout annoncé vu que tu découvres l'univers de nouveau à la From Software sans aucune explication. Puis t'as ce truc gigantesque qui est hyper impressionnant, puis c'est hyper bien de nouveau amené de manière organique et tu dois te débrouiller. Enfin, tout est, ouais, c'est vraiment prenant. C'est un sacré univers. Que j'avoue, je serais frustré de pas réussir à cause de la difficulté à découvrir tout l'univers du jeu. Mais ça risque d'arriver.
Courage, allez,
on sera avec toi.
Exactement.
Ouais.
Et puis voilà, très, très bien sur PS5. Je pense qu'il doit pas être bien cher maintenant, d'ailleurs. Je sais plus. Mais...
Il est souvent en promo.
Je pense. Hein.
D'ailleurs, c'est un des From Software édité par Activision. C'est assez. Je crois que c'est le seul où. Et c'est assez rare, en fait, d'avoir un Activision qui a édité un jeu japonais déjà. Et un From Software,
Ok. Ouais, c'est vrai que je me suis dit ça ce matin, en fait. J'ai lancé le jeu, puis je vois Activision. Je dis quoi, Activision? Qu'est-ce que vous faites là?
C'est pas Bandai, mais en fait, parce que chez From Software, si je me trompe pas, il y a deux équipes qui font des jeux en parallèle. Donc, il y a la team un peu Bloodborne,
Souls.
Enfin, il y a les Dark Souls, il y a la team Dark Souls, il y a eu la team Bloodborne et Sekiro. Et je sais pas, Elden Ring, c'est peut-être là, ils ont mis les deux équipes ensemble parce que le jeu est tellement grand que je pense qu'ils ont dû faire un truc comme ça. Mais par exemple, il y a la team qui a créé Armored Core 6. Ouais. Donc en fait, je crois qu'il y a toujours deux équipes quand même chez eux. Et je sais pas comment ils se partagent, mais je sais plus laquelle est quelle équipe fait quoi. Mais en gros, c'est un des rares jeux édités par Activision qui est pas développé chez eux aussi.
Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que je n'ai jamais remarqué qu'il y avait Activision. Coucou.
Ils vont nous sponsor, tu crois, parce que
oui, bien sûr. Si on le cite un nombre suffisant de fois,
tac.
Ils envoient un chèque.
Ils livrent direct.
Voilà, ouais. C'est exactement. Okay. Donc, il faut encore dire deux fois Activision avant la fin du podcast.
On doit dire Activision, c'est ça.
Ouais. Okay. Encore une fois.
Activision.
Ouais, c'est bon. Merci. Merci. Au revoir. Catchy. Très bien. Trêve de galijade. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Sekiro?
Non, je crois pas. Je me réjouis de retourner jouer.
Oui,
je comprends. Là, vraiment, ouais, c'est prenant. Non, c'est vraiment prenant. Et puis, on reparlera un peu de ce genre de truc dans la deuxième partie, je pense, de toute façon.
Ok, parfait, merci. Vous avez des questions encore?
Je crois pas, non. Enfin, ça m'intrigue. Ça donnerait presque envie de tester.
Juste par curiosité, c'est pas trop ton genre de jeu, non?
J'ai jamais fait de From Software. Ouais, mais ça m'intrigue. Ça fait des années que je me dis, j'ai trop envie de tester. Chaque fois, la difficulté me fait un peu peur, j'avoue. J'ai trop envie de jouer à Bloodborne, mais tous les gens que je connais, ils m'ont dit non, mais laisse tomber, tu vas pas y arriver, ça va te saouler.
C'est un conseil peut-être, mais je pense. Enfin, j'ai pas fait Sekiro, mais vu la difficulté dont on en a parlé et que je connais de ce jeu-là, je déconseillerais de commencer par celui-là, si tu veux découvrir un Souls. En vrai, le Elden Ring, c'est peut-être le meilleur à ce niveau-là, parce que t'as vraiment là, tu vas embrasser tout le summum de ce que ce studio est capable de faire, et en même temps, il y a une difficulté assez élevée, mais comment dire, c'est faisable, quoi.
Ouais, c'est accessible, avec tous les guillemets que ça comporte.
Tu vas galérer parce que tu découvres le jeu. Mais une fois que tu comprends comment ça fonctionne, en fait, ça devient un jeu qui est un peu différent. Et oui, il y a des boss difficiles avec des patterns à apprendre, mais en fait, t'as toujours ce sentiment de progresser quand même. Et ce que peut-être Sekiro a un peu moins...
Et vachement plus exigeant, je trouve, qu'un autre Souls. Et il y a un truc, c'est tellement particulier le gameplay que...
Mais est-ce que le risque, justement, c'est pas de commencer en commençant par Elden Ring et après de devoir un peu revenir en arrière sur des trucs moins fluides, moins...
Peut-être, hein, après... c'est clair que tu passes de Elden Ring à Demon's Souls, par exemple. Alors, il y a les mêmes... tu vas voir les mêmes patterns, les mêmes mécaniques pour beaucoup, mais c'est beaucoup plus rigide, c'est un peu différent, c'est aussi beaucoup... Enfin, les deux sont cryptiques, as fuck, comme on dit, mais genre Demon's Souls, ça l'est encore plus. Enfin, c'est vraiment... Faut quand même se rendre compte que c'était un jeu... je sais même pas s'il était, il était édité ici, en Europe. Je crois que des gens l'importaient par CD en Europe au début. Et en fait, il y avait très très peu de gens qui connaissaient ce type de jeu. Et puis la sauce a pris, par la suite. Mais donc c'est des jeux qui nous parlent pas parce que en fait ils sont tellement uniques et complexes. Enfin, je veux dire, on en parlait avant, mais Elden Ring, c'est cool de le découvrir, et puis après, c'est cool de le faire avec un guide à côté pour comprendre un petit peu mieux aussi ce que tu dois faire, comment faire les choses, et là, tu vas te rendre compte de la puissance du jeu, quoi.
Je suis en train de me rendre compte que on se débrouille toujours pour parler au moins d'Elden Ring ou de Diablo dans tous les podcasts.
J'ai rien dit sur Diablo.
Non, mais je vois très bien ce que tu fais. Là, t'amènes ça sur le tapis. Tiens.
J'ai ni parlé de loot, ni de Diablo, ni de Destiny. On notera.
C'est noté. Ok, mais c'est vrai que moi, je suis comme toi, Blisken. J'ai fait aucun des From Software. Puis moi aussi, c'est la difficulté qui me rebute un petit peu. Pourtant, je sais que dans d'autres jeux, ça me motive, cette difficulté-là. Mais là, j'ai l'impression que c'est...
Ça est devenu mythique, presque mythologique. Il y a un côté où
Suis-je digne d'entrer dans le temple?
Ouais, et puis inversement, tout le côté cryptique du lore et tout, ça vend du rêve, ça donne envie. Mm-hmm. D'ailleurs, c'était la chaîne YouTube HAL236 qui avait fait un épisode sur... c'était quoi? C'était sur Dark Souls, je crois. Et ça vend du rêve de fou. Tu te dis, mais putain, faut que j'y joue. Puis,
je peux pas.
Franchement, si t'aimes le genre de truc, mais Bloodborne à l'époque, je trouve c'est fascinant à quel point c'est intriqué. Puis Elden Ring, c'est aussi complètement dingue, quoi. C'est même, comme tu disais, c'est le summum du truc. Je sais pas si mieux que Bloodborne. Autre débat. Arrêtons là.
Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc Sekiro, toi tu y joues sur PlayStation, mais il est aussi disponible sur Xbox et sur PC.
C'est vrai ça ?
C'est
vrai.
Wikipédia.
Hérésie. J'arrête de jouer tout de suite.
Parfait. Et donc, à toi, Météora, de quoi veux-tu nous parler ?
Ouais, alors, je vais vous parler d'Elden Ring, parce que... non, je rigole. Même si j'y rejoue et je me prépare pour le DLC qui sortira en juin, donc j'ai recommencé le jeu récemment. Mais je ne vais pas parler de ça. On va parler d'un autre jeu qui s'appelle, que j'ai fait récemment, parce que, en fait, je cherchais une expérience... vidéoludique un peu différente de ce que j'avais l'habitude de faire, et puis un petit jeu à faire en attendant Dragon's Dogma 2 et peut-être Ronin, je sais pas comment on va le prononcer, qui sortent le 22, donc enfin mars, donc peut-être quand le podcast sera déjà sorti ou il sortira à son voilà, je sais pas trop quand, mais bref. Du coup, j'ai un peu ces entre des parties d'Helldivers, un run de Elden Ring, et puis j'avais envie de faire un peu autre chose, et je suis tombé sur j'ai ouvert le PS Plus, puis je suis allé voir un peu ce qu'il y avait, et il y avait il y a un jeu qui je me suis dit mais c'est quoi ce jeu, ça s'appelle The Artful Escape, et puis c'est un petit jeu indépendant qui propose surtout une histoire et puis des visuels. Donc c'est pas vraiment un jeu vidéo dans lequel le gameplay a une importance folle. C'est un petit jeu, donc c'est développé par un studio qui s'appelle Beethoven et Dinosaur, qui est composé de quelques personnes, dont notamment des musiciens d'un groupe australien, dont le musicien principal, en fait, à force de faire des tournées, il en avait un peu marre, puis c'est un mec qui vient du monde artistique, et il a toujours été intéressé par faire des jeux vidéo, puis en fait, il s'est mis à faire ça lors d'une pause entre deux tournées. Et donc, ça a donné naissance à ce jeu-là, qui met en scène. Donc, c'est édité par Annapurna Interactive aussi. C'est sorti en 2021, donc ça date un petit peu. C'est sur toutes les plateformes. Bah, maintenant, il est sur PlayStation, mais PC, Xbox, c'est là-dessus. Je crois pas sur Switch, mais bon. Ça tourne sous l'Unreal Engine 4 et c'est super beau. C'est un jeu, donc, en 2D. Enfin une force de fausse 2D. Enfin, c'est de la 2D, en fait, mais avec un effet de profondeur. Et puis, en gros, on joue un jeune musicien qui est le neveu d'un grand musicien de folk et qui a disparu. Enfin, il est mort. On ne sait pas trop ce qui s'est passé autour de ce musicien-là. Puis il y a un festival qui se passe dans la ville et en gros, lui, le jeune, enfin son neveu, donc va jouer en son honneur en fait de la musique et tout. Mais la folk, c'est pas son truc, quoi. Il a un peu de la peine. Puis il se fait un peu aborder par une nana comme ça. Bord d'une falaise, il est en train de contempler un paysage, puis il se fait un peu aborder par une nana qui lui dit des choses un peu bizarres, comme quoi il faut qu'il essaye des nouvelles choses, elle lui transforme un peu sa guitare, puis sa guitare devient électrique. Et en gros, finalement, donc l'histoire, c'est ça, il part, il se fait emmener par un black jazz gars qui vient avec sa guitare qui descend du ciel comme ça, puis qui l'emmène en fait dans l'espace et dans le cosmique, enfin voilà, c'est un truc un peu très futuriste, très science-fiction, science-fiction, fantasy et tout. Et en gros, on va suivre le développement de ce jeune à travers différents mondes, différentes rencontres, et puis donc le développement musical de ce jeune. Et c'est un jeu où en gros le gameplay consiste simplement à aller de gauche à droite ou de droite à gauche, donc c'est tout simple. Et puis on peut sauter, on peut faire un double saut, et si on maintient la touche carré quand on est en l'air, il fait un petit solo de guitare, puis en fait il va un petit peu plus loin, une sorte de dash.
Okay.
Et si on maintient carré constamment, en fait il joue, et c'est la bande son du jeu. Donc si tu lâches carré, il y a toujours un son, mais il y a toujours une sorte de musique de base.
Ouais.
Mais quand tu le fais jouer lui, t'as vraiment la guitare par-dessus la bande son qui se colle, puis ça donne un effet un peu cool parce que tu peux un peu contrôler la bande son un petit peu comme ça. Alors ça a pas l'air, c'est pas un vrai contrôle en gros, hein. C'est, tu lâches carré, ça s'arrête, tu represses carré, ça repart. C'est toujours organique, ça marche super bien. Et le gameplay c'est ça en fait, enfin presque ça. Il y a deux trois rencontres avec des sortes de boss où en fait on va devoir jouer des notes, donc c'est une sorte de il faut presser les bonnes notes au bon moment. Alors c'est pas vraiment un guitar hero, mais en gros il y a cinq touches, et en fait donc carré, triangle et rond, et puis L1 R1.
Ouais.
Et en fait les boss ont une sorte de forme qui ressemble aux touches. Ah. Et puis en gros, tu as des couleurs et en fait, tu dois faire les mêmes choses que le boss. Donc des fois, ça va un peu plus vite, les patterns vont un peu vite, puis tu dois essayer de faire les bonnes notes à la suite. Et puis si tu te loupes, ça recommence en fait. Il n'y a pas de game over en fait. Ouais. Donc c'est un jeu qui n'a pas de game over, tu ne peux pas mourir, il n'y a pas de violence particulière, etc. Puis en fait, tu traverses cette expérience de jeu qui dure, je sais pas combien de temps ça m'a pris, peut-être 5-6 heures, peut-être un peu plus. Ouais, deux soirées et demie, quoi. Ouais. Puis en gros, voilà, tu traverses ça. Moi, j'ai trouvé assez sympa. C'est très limité, par contre, dans ses mécaniques et dans son gameplay, mais c'est hyper beau. Ouais. Ça claque, ouais, vraiment, visuellement, c'est la folie furieuse.
La DA, je regarde, c'est magnifique.
Elle est exceptionnelle. Il y a vraiment des moments où t'es là, waouh, puis tu claques ton petit solo de guitare avec ce paysage incroyable. Enfin, vraiment, ça donne il y a un côté chouette, quoi. J'aurais presque voulu. Alors, c'est un peu une critique bizarre parce que j'aurais voulu plus. C'est-à-dire, j'aurais voulu un gameplay peut-être un peu plus. Ouais. Pointu, des choses à faire, des boss, un peu des choses différentes. Et en même temps, non, ça, parce que du coup, ben, c'est un peu une expérience contemplative. Et donc, t'as pas forcément envie d'être très actif. Donc, c'est un jeu qui c'est entre deux, comme ouais. ça. Et je conseille pas à tout le monde, c'est pas forcément. Voilà, mais si vous êtes un peu curieux, que vous avez une soirée à faire, deux soirées, c'est vraiment chouette. Juste de le traverser, quoi. Ça, okay. ça va très vite, c'est facile, il n'y a aucun ouais. problème.
Mais quand tu joues de la guitare, ça n'a pas d'influence, c'est-à-dire que tu ne prends pas un boost ou...
Non, ouais, okay. non tu ne vas pas plus vite, tu fais pas... voilà, il n'y a rien de différent, en fait. Donc, c'est vraiment très limité.
Tu t'alignes sur la...
Sur la bande-son, et puis ouais. voilà. Ouais, ouais, ouais. Et le jeu est barré, je veux dire, on t'emmène dans des ouais. endroits, il y a des trucs assez fous, il faut convaincre un boss, il faut entertainer un boss de fin, et si tu, en fait, c'est tout le principe, c'est que si tu n'y arrives pas, en gros, t'es tous ceux qui le rencontrent et qui n'arrivent pas à l'entertainer, enfin, ils sont ensuite coincés avec ce boss-là, et ils en admiration devant lui, et ils meurent, en fait, parce qu'ils peuvent pas quitter la planète, ouais, tu vois. Okay. Seuls ceux qui ont réussi à le divertir, ils ont le droit de quitter la planète. Et donc, à la fin, il y a voilà, cet élément qui se met en place. Mais je suis curieux de savoir ou de voir si ce studio-là va refaire quelque chose. Parce que c'est vrai que la DA, en tout cas, elle est exceptionnelle. Et on en parlait avec Gary aussi, que je resalue. il était très étonné, lui, de voir que ce jeu-là avait pas été plus mis en avant parce que sa DA est juste exceptionnelle ouais. et que ça pouvait justement intéresser pas mal de gens. Il est un peu passé sous silence, peut-être parce que son gameplay est finalement très très limité. Donc voilà.
Ouais. C'est vrai que toi, tu disais, t'es tombé dessus un peu par hasard.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il est gratuit sur. Enfin, si vous avez l'abonnement PS Plus, il est dessus. Sinon, je sais pas.
J'allais dire, je viens de le. Je cherche à faire le tour.
Mais c'est vraiment un petit jeu. Hein. Faut voilà. Ouais.
C'est vrai qu'il y a un côté un peu dans la bande-annonce que tu m'as envoyé. Mm-hmm. Non, il y a un côté un peu, enfin, psychédélique, un peu.
Ah, complètement, ouais.
Un peu Pink Floyd.
Alors c'est c'est inspiré ouais. de. En fait, c'est inspiré. Alors, j'étais me renseigner un petit peu de la vie, enfin, de David Bowie, en fait.
Ah ouais.
Et de Ziggy Stardust. Ouais. Donc, il y a un peu ce côté-là. Si vous êtes un peu fan de. On va dire de cet univers-là, il y a vous allez retrouver là-dedans des éléments quoi, ouais. ça c'est clair. Il y a deux trois sons, notamment de la guitare, c'est très David Gilmour de Pink Floyd. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai bien aimé, à vrai dire. Mais c'est pas voilà, c'est faut aimer la guitare électrique quoi. Et c'est pas du gros rock en fait. C'est je sais pas comment dire, un peu du glam rock ou je sais pas.
Ouais, il y a un peu un côté un peu symphonique. Mais
ouais, voilà, exactement, lyrique, exactement, ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement. D'accord. Et ça colle bien à l'univers, ouais. c'est hyper bien, donc vraiment top.
Je me disais le nom du studio en direct, les mecs ils sont arrivés au bureau de dépôt ouais. et puis ils ont dit il y avait un poster avec Beethoven et un truc Beethoven dinosaure. Ouais,
c'est ça.
On met tout ce qu'on aime dans le ouais, studio.
Exactement.
Du coup c'est pas qu'un gars parce qu'ils disaient
non ils sont petits ouais, alors il y a le on va dire directeur artistique un ouais. peu musicien mais il a engagé un autre compositeur aussi puis ils sont 5 je crois 4, okay. 5. Ça a été c'est un projet qui a été kickstarté depuis pas mal d'années
d'accord
ouais. date de 2015 a priori et puis ça a un peu passé des concours ils ont reçu ouais. des un peu d'argent par-ci par-là, et puis, ouais. Bah, finalement, il est sorti en 2021.
Quoi. Ouais, ok. Je le disais en voyant les dessins et les graphismes. Enfin, tu fais pas ça juste en essayant, quoi. C'est vraiment joli, donc.
Ouais, non, c'est, y a une maîtrise quand même.
Ouais.
Maîtrise de la DA, ouais. Le gameplay, pas trop, mais.
Ouais. Et du coup, petite question, t'avais testé Musical Story?
Ah, j'en ai parlé avant.
Ah, ok.
Non, justement, j'ai pas fait, je l'ai pas fait.
Ok, là, ouais. Ça me fait. Enfin, tu vois, là pour le coup, c'est vraiment un jeu de rythme.
Ouais.
Mais ça me fait droit penser à ça, parce que pareil. Enfin, je crois que tous les dessins étaient faits à la main. Mm-hmm. C'était ambiance Woodstock et tout.
Okay.
En plus, un groupe hyper soudé qui s'embrouille, drogue, okay. Amour, machin. Enfin, ouais. Du coup, ça m'a fait penser à ça. Donc.
Ouais. Ok, bah c'est à faire. Je le note. On en a parlé justement. Ouais. C'est noté quoi.
Bonne voilà. Référence. Ok. Et puis donc après, tu disais, tu as des attentes sur Dragon Dogma 2 et Dragon's Dogma 2.
Alors des attentes, je sais pas, mais c'est un peu le gros jeu. Enfin, il y a deux gros jeux au mois de mars, ça va être celui-là et puis Ronin là, sur une exclusivité donc PlayStation. Mm-hmm. Les deux ont l'air chouettes, je sais pas lequel je vais faire encore. Dragon's Dogma, j'ai pas fait le premier, mais c'est un jeu qui a l'air, alors j'ai à peine joué en fait, j'ai commencé le premier pour voir un petit peu le système, mais c'est vrai que c'est aussi très particulier parce que c'est un de ces jeux japonais en fait, RPG japonais qui a j'ai pas une hype folle à l'heure actuelle, mais en fait personne n'y a joué à part Gary que je resalue.
Il y a Sigurd aussi qui est giga fan, il en a parlé dans un des leur podcast, j'ai un blanc.
Une génération de retard.
Oui. Enfin, okay, du coup, ouais, j'ai essayé aussi suite à son truc parce qu'il était au taquet. Ouais.
Et c'est vrai que c'est un peu. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais de nouveau, ça a pas l'air d'être le jeu auquel, en fait, on s'attend. Et parce que c'est un peu le truc du premier, apparemment, c'est que, voilà, il avait des mécaniques beaucoup plus. En avance sur son temps, apparemment. Et les gens n'avaient pas trop compris ce jeu-là. Et donc, je sais pas trop si pour le 2, ça va être. Un peu pareil, on va avoir droit à des éléments de gameplay ou des mécaniques qui en fait vont nous rebuter parce qu'on est habitué à un certain style d'open world à l'heure actuelle. Mais ça a l'air assez taré, ça a l'air fou. Voilà, il y a plein de choses. Pourquoi pas. Mais je sais pas encore si je vais faire celui-là ou l'autre. On verra un petit peu si on va se répartir le travail avec Gary. Je sais que Gary va faire Dragon's Dogma 2, donc il y a de fortes chances que je fasse l'autre pour un peu avoir un. Un point de comparaison.
Nous,
quoi.
On s'occupera de Princess Peach qui sort le même
jour.
Voilà.
Exactement. Ouais, c'est juste.
Non.
Allez. Ok, très bien. Alors, pour terminer cette partie sur les jeux du moment, est-ce que vous aviez d'autres questions encore?
Non, mais c'est intriguant, ça a l'air cool.
Ouais.
Moi, je dis ça à chaque fois, mais
c'est parce que c'est des bonnes références.
Mais ouais, on parle de bons jeux. C'est...
Bah, non, mais ça. C'est...
Ok, parfait. Donc du coup, pour ma part, je réfléchissais un petit peu à de quoi je pouvais parler. Il y a deux jeux que j'ai essayé dernièrement. Le premier, c'est un point and click qui s'appelle Hercule Poirot London Case, que je suis en train de faire en long et en large dans une série de live Twitch.
Abonnez-vous.
Abonnez-vous, exactement, sur la chaîne Gaming Fed. C'est un point and click que je trouve... Pour l'instant, je suis très mitigé, hein, très honnêtement. Il a été développé par Blazing Griffin, si je me souviens bien, quelque chose comme ça, qui est un studio qui n'a pas fait grand-chose, et puis qui est édité par Microids. Et puis, ce jeu a fait partie d'une grosse vague de jeux Microids qui sont sortis en fin d'année passée. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Microids, mais ils ont édité... Plein de jeux en même temps qui sont sortis quasiment tous en deux semaines.
Moi, je soupçonne des problèmes de planning.
Ouais, justement.
Ils ont perdu le fichier Excel et ça, on sort tout maintenant. Allez, vas-y.
Feu libre.
Ça fait un peu penser aux jeux de gestion.
On a des articles qui vont passer. Vas-y, on les balance.
Ou alors, c'est genre, c'est plutôt une stratégie marketing de on inonde le marché de nos jeux et on espère que parmi tous ceux-là, il y en a. Tu vois, les gens vont forcément en
acheter. Les gens parlent que de nous pendant un petit moment.
Exactement. Et puis, ça n'a pas très bien marché.
Mauvaise stratégie.
Mauvaise stratégie parce que la plupart de ces jeux se sont pris des bids. il y a eu un Goldorak qui s'est fait défoncer, que j'ai pas essayé, mais la critique était catastrophique. Il y a eu un jeu Schtroumpf qu'on a essayé aussi lors d'un live Twitch qui était pas trop mal, mais bon, ouais, un peu un jeu pour enfants sympa, mais sans plus. Il y a Flashback 2 qu'on avait essayé ensemble à la Gamescom.
Oh, le Flashback là, oh là là, c'était l'enfer.
C'était,
ouais. Bon, toi, t'avais bien aimé, hein.
Alors, mais... moi, j'étais curieux parce que j'ai adoré Flashback à l'époque. Puis là, ben, je vais tester le Flashback 2 aussi, mais apparemment, là aussi, la critique était pas bonne. Il y a ce Hercule Poirot qui est un peu moyen. Il y en a un autre qui a l'air nettement plus intéressant, qui est le Crime de l'Orient Express. Il y a eu Tintin, les cigares du pharaon, qui là, moi j'avais quelques attentes aussi, mais là aussi c'est fait défoncer par la critique. Enfin, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé chez Microïd, c'est pas facile à dire, mais en tout cas, ils ont inondé le marché du jeu vidéo avec beaucoup de titres. Et donc du coup, je joue à ce Hercule Poirot, et ce que je lui trouve de positif, c'est qu'il amène une dynamique que j'ai jamais vue ailleurs, c'est qu'il te propose de faire des liens logiques. C'est-à-dire qu'en fonction des indices que tu récoltes, après, il y a des cartes mentales qui s'ouvrent, puis tu dois relier les indices ensemble en disant, bah, tiens, j'ai trouvé une trace de peinture ici, il y avait de la peinture sur le bureau, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Puis ça te permet de reconstituer les éléments. Et je trouvais que ce qui était assez bien vu, c'est que quand on... Alors, les quelques Hercule Poirot que j'ai lus ou les films que j'ai vus mettent bien en avant cet aspect... déduction logique. Et du coup, je trouvais intéressant qu'ils aient réussi à transformer ça en mécanique de gameplay. Ça, c'est assez cool. Après, en termes de point and click, c'est un peu limité parce que tu arrives dans une pièce, il y a vraiment 3-4 objets maximum sur lesquels tu peux interagir. Alors, ça évite le fameux clic sur tout ce qui bouge et puis on verra bien ce qui se passe. Mais des fois, tu as un peu l'impression que tu n'es pas tellement aux commandes.
C'est-à-dire trop orienté un peu.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est intéressant. L'histoire, elle se passe à Londres, comme son titre l'indique, donc London Case. Et c'est un jeune Hercule Poirot qui n'est pas encore connu, qui n'est pas encore réputé, mais qui se présente déjà comme étant le meilleur détective de Belgique, qui doit assurer qui doit assurer la protection d'un tableau. Et puis, c'est un loser, parce qu'après une heure, le tableau disparaît. Et ben, le musée était verrouillé de l'intérieur. Il n'y a que les gens qui étaient à l'intérieur qui ont pu piquer le tableau. Et tu dois trouver, donc c'est sous forme de huis clos, tu dois trouver qui, parmi les invités présents, ont piqué le tableau.
Donc, caché sous le pull, un énorme tableau.
Comment tu sais? Oh, tu
es trop fort. J'ai envie de dire qu'on a des effets, on met la petite musique de l'amour.
C'est lui, hein.
C'est le gamin bizarre qui a une forme un peu rectangulaire, comme ça.
Non, ouais, il est intolérant au gluten. ça lui déforme l'estomac. Donc voilà, j'ai pas encore fini. Je suis à peu près à la moitié du jeu. Je ferai un test un peu plus poussé typiquement, ce genre de jeu, tant que tu l'as pas fini, t'arrives pas à avoir vraiment un recul. Pour le moment, je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais qui sont un peu mal exploitées. Et puis, sinon, j'ai joué aussi un peu à Skull and Bones.
Oh.
Oh. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc qu'on pouvait discuter un peu parce que, pour remettre le contexte, Skull and Bones, c'est un jeu d'Ubisoft qui a été reporté, je sais plus combien de
4 fois, je crois.
Pas plus.
4 ou 5 fois.
J'aurais dit encore plus que ça. Non, mais ok, en tout cas, 4 ou 5 fois. Et donc c'est un jeu de pirates qui est inspiré de Assassin's Creed Black Flag. Donc c'était les batailles navales qui étaient de Black Flag qui étaient reprises pour être mises au centre d'un gameplay. Et, on joue pas les pirates, on joue le bateau en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on dirige le bateau, c'est un bateau à la Need for Speed, c'est-à-dire qu'il peut drifter et puis partir dans l'autre sens.
Là tu me parles, vas-y, continue.
Et il y a du loot. Et il y a une partie...
Il y a du loot pas intéressant.
Ouais, il y a du loot, du loot pas intéressant, exactement. Il y a une partie à pied quand même, c'est-à-dire que tu... Un peu comme Sea of Thieves, tu commences sur une île, tu dois... préparer ton équipage, te préparer ton bateau, charger suffisamment de boulets de canon, de victuailles pour gérer l'équipage. Et ensuite, tu pars en mer. Et puis là, alors c'est vraiment très Black Flag parce que tu peux lancer des chansons de pirates, t'as la longue vue pour identifier les endroits où tu dois aller, etc. T'as une carte pour repérer l'endroit où tu veux naviguer. Et puis, t'as des objectifs du type détruire telle frégate ou récolter tant de bambou, ou je ne sais plus quel bois. Et c'est
la passion, quoi.
Et c'est un peu chiant. C'est malheureusement un peu chiant. Et moi, je trouve que c'est un peu un cas d'école, je trouve, parce que d'avoir un jeu qui est autant repoussé, généralement, quand un jeu est repoussé, ça, je suis plutôt pas forcément inquiet parce que je me dis, bon, bah, ok, ils prennent un peu le temps de peaufiner des trucs, c'est pas forcément grave. En plus, ça me permet toujours de finir les jeux que j'ai pas fini avant, donc c'est une très bonne chose. Mais là, de voir suffisamment, il a été tellement de fois repoussé. Et dans le générique du début, tu vois qu'il y a, il y a à peu près tous les studios.
Il y a six studios, combien.
Exactement. Il y a à peu près tous les studios Ubisoft qui ont fait un truc dedans. Ouais. Et puis, quand on l'a testé, on se disait en rigolant avec Mush que t'as l'impression que c'est les stagiaires de chaque studio Ubisoft qui ont mis un petit bout de contribution. Et en fait, je comprends pas tellement.
Pour y avoir joué aussi un petit peu et puis m'être intéressé à ce jeu-là. En fait, on a discuté avec Gary que je resalue. le Singapour, hein, donc c'est développé par Ubisoft Singapour, qui était leur nouveau studio créé à l'époque, parce que Singapour avait une politique de développement du divertissement et notamment dans le jeu vidéo, donc ils financent. Oui. Une partie des studios de développement de jeux vidéo. Et donc Ubisoft s'est implémenté là-bas, a développé son studio et ils ont reçu en fait un financement de la part de Singapour avec la promesse de faire un jeu qui met en avant Ubisoft Singapour.
Oui, d'ailleurs, à ce propos, ça ne se passe pas dans les Caraïbes comme dans
non, la plupart du temps.
C'est des pirates, justement.
C'est justement, on va dire, l'Asie du Sud-Est.
Ce qui est cool, d'ailleurs.
Ça change. Ouais, une des îles avec des palmiers. Hein,
si c'est pour des raisons fiscales, ça fait un peu chier.
C'est pas des raisons fiscales.
Non, mais pour des raisons économiques.
C'est pour des raisons... En fait, donc en gros... Dans tous les mondes possibles, ce jeu est annulé à un moment donné. Parce que en fait, ils ont un accord avec le gouvernement de, enfin avec l'État de Singapour, qui paye en fait constamment pour sortir ce jeu-là. Eh ben, le jeu sort à un moment donné. Mais tous les jours, ce jeu est annulé, quoi. C'est évident à quel point en fait c'est un problème parce que on ne sait pas ce que c'est ce jeu. Les développeurs ne savent pas ce que c'est de leur jeu. Ils ont mis plein d'éléments dedans parce que en fait ils se sont dit on va mettre des mécaniques parce que c'est un jeu. mais en fait tu sais pas, il y a aucune cohérence. Les parties à pied, parties bateau. Enfin c'est deux parties à pied. Tu dis mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça comme ça?
Oui, comme ça.
Plutôt parce qu'en fait, faites-le, mais pas comme ça. Ils ont enlevé toute la partie. Cool de Assassin's Creed Black Flag qui était je passe de mon bateau, je saute sur l'autre bateau, il n'y a pas. Il y a vraiment des parties où t'as gagné le combat contre le bateau, donc tu vas l'éperonner et puis le piller. Et en fait c'est écran noir et puis t'auras une cache de trésors où tu peux juste prendre le loot puis le mettre dans ton bateau puis c'est terminé. Donc il y a même pas de combat. Donc tu vois qu'en fait ça a été cuté à un moment donné dans le projet, qu'ils sont passés ils ont fait plein d'itérations puis en fait ils savent pas où ils vont avec ce jeu-là. Ce qui est un peu triste parce que finalement ça partait d'une bonne idée. Il y a aussi tout le côté online. Qui a été vendu depuis le début du jeu, du projet, où en gros tu vas jouer avec tes potes, une sorte de bataille navale, machin. Donc c'est cool si t'as différents types de bateaux, parce qu'il y a différents types de bateaux,
plus rapide, plus flottis, machin.
En fait, ça, tu passes à travers complètement. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est à moins d'avoir quatre potes qui sont complètement fans d'Ubisoft Singapour.
J'aime bien que tu dis pas fan de pirates,
fan d'Ubisoft Singapour. Parce que c'est fan de pirates, il y a d'autres bons jeux de pirates, tu vois. Donc. Des vrais jeux de pirates, quoi. Ouais.
J'allais dire, ça me fait penser à Sid Meier's Pirates, mais le fun en moins, alors que le jeu, il a 15 ans, quoi.
C'est peut-être ça, Et c'est vrai que c'est un cas d'école de tout ce qu'il faudrait peut-être pas faire, même au niveau marketing, de le vendre, de le survendre comme un quadruple A, parce qu'il y a 15 studios.
Je sais pas combien de fois à la Gamescom avec des immenses stands, c'est bon, Skull and Bones arrive, finalement. Puis après, en plus, forcément, la comparaison lui fait mal parce que t'es constamment en train de te dire « Ah, dans Sea of Thieves, c'est quand même mieux, ça.
» Ça te donne envie d'y jouer,
Exactement. Puis, pour moi, il y avait un point qui était flagrant avec ça, c'est que dans Sea of Thieves, charger son bateau, c'est pas la partie la plus fun. C'est-à-dire qu'au début, tu parcours l'île, tu dois fouiller tous les tonneaux pour ramasser les planches, les bananes, les boulets de canon, etc. Mais il y a un côté marrant, enfin un côté... fluide, justement. Mm-hmm. Tu le fais un peu avec tes potes, puis tu parles de ce que tu as fait pendant ta journée en ramassant tes... C'est un peu une tâche monotone, mais qui passe. Par contre, là, dans Skull and Bones, c'est pénible. Mm. Tu dois aller chez un marchand, tu dois aller trouver où récolter les ressources.
C'est un fichier Excel aussi, parce qu'en fait, c'est des menus et tu passes d'un menu à l'autre, tu transvases d'un menu à l'autre tes éléments, puis c'est pas très intéressant, c'est pas fun, quoi.
C'est hyper laborieux, quoi.
Ouais, c'est ça, ça devient laborieux, exactement. Puis ça, je me dis, mais c'est dommage, parce que moi aussi, j'avais des attentes pour ce jeu, parce que moi, j'adore les univers pirates, puis j'avais adoré Assassin's Creed Black Flag, donc je me réjouissais que ces mécaniques-là soient réutilisées. Donc typiquement, je me dis, c'est un jeu... Le marketing l'a mis en avant, et si on doit y jouer, je pense que c'est dans 4 ans.
Très certainement qu'il va être amélioré, peaufiné, etc. Par contre, il y a des choses qui ne le sauveront jamais.
Ouais.
Et on n'a pas parlé de ça, mais ok, les mécaniques sont nulles, enfin, c'est pas très intéressant, mais la narration n'est pas intéressante du tout. Aussi, l'histoire, elle est bancale au possible. Enfin, c'est un truc avec un nom de pirate random je sais pas, c'est peut-être en fait une sorte de. Tu joues en fait un pirate ou une pirate à son service, et puis ton bateau coule, puis en fait tu survis, puis tu pars à zéro, mais déjà pourquoi tu commences à devenir chef de ton bateau alors qu'avant tu étais un simple moussaillon, puis en fait le bateau sur lequel t'étais qui a coulé, il appartenait à un pirate qui a perdu une cargaison, puis en fait tu vas devoir le rembourser. J'ai pas trop compris.
C'est Tom Nook, mais chez les pirates.
Non, mais c'est hyper bizarre. Puis après c'était un ennemi, mais en même temps c'était ton patron. Enfin, on sait pas trop. J'ai rien capté à ça. Et puis alors que j'ai joué 2 heures, et puis j'étais ce jeu ne sait pas raconter une histoire comme il faut.
Ouais. Dans les 2 premières heures, j'ai trouvé que c'était hyper lent. Comme tu disais, laborieux, je pense que c'est vraiment le bon terme. Quand c'est que ça va démarrer, et puis on n'arrête pas d'entendre aujourd'hui des jeux. Oui, il faut faire les 5 premières heures. Après, c'est cool, après 2 heures, j'en peux déjà plus, quoi.
Il y a aucun film où, par exemple, tu te dis il faut passer la première heure et demie, et après tu verras, c'est hyper bien. Ça. Tu peux pas imaginer
c'est
ça.
C'est répulsif en général.
Jeu, si ces 2 premières heures elles sont ratées, c'est pas un bon jeu, parce que c'est là où tu vas capter ton audimat et tes joueurs. Quoi. Donc,
On dit que quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, si t'arrives pas à sortir de la comté, il faut se forcer un petit peu.
Je me suis repris à beaucoup de fois.
C'est un peu laborieux.
C'est pas hyper fluide, mais une fois que t'en sors, t'es content.
Voilà, exactement.
Mais un livre, c'est pas le même média. C'est pas censé te divertir pareillement.
Exactement. Donc j'ai un peu envie de dire, tiens, j'ai envie de le mettre complètement de côté, puis de revenir dans 4 ans, voir ce qu'ils en auront fait, parce que...
Tu l'as oublié.
Je l'aurais oublié, parce qu'il y aura d'autres jeux, il y aura d'autres Hercule Poirot qui sont sortis entre-temps. c'est très particulier, et puis c'est un peu représentatif de ce qui va pas chez beaucoup de grands studios aujourd'hui, et à mon avis particulièrement Ubisoft. Toi, t'as testé Avatar aussi... Toi aussi, je crois, d'ailleurs, Météora. Et toi, Teiki, t'as un article qui doit sortir.
Oui, tout à fait.
Exactement. Donc, il y a justement ces gros efforts qui sont mis en avant pour des gros jeux avec un budget monumental. Puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Alors que finalement, Prince of Persia, qui vient de sortir aussi chez Ubisoft, il est beaucoup plus intéressant, il coûte moins cher. Et puis, voilà.
Alors, moi, c'est juste un petit aparté sur Avatar. Je trouve que, du coup, pour le coup, le jeu vaut un peu plus la peine quand même.
Ouais.
Déjà visuellement c'est aussi de la folie furieuse. Techniquement c'est incroyable. Après il faut être peut-être fan de Avatar, j'en sais rien, moi je le suis pas, mais j'ai trouvé vraiment que c'était assez fou. Il y a des bonnes idées, il y a vraiment des bonnes idées, notamment aussi sur sur les comment les quêtes sont gérées si tu joues avec le mode exploration. Et puis il y a 2-3 éléments qui sont chouettes. Après c'est un jeu un peu bateau, un peu basique, on va dire, un peu à la Ubisoft, avec des tours et puis des choses.
Mais il est clairement pas acheté, hein, c'est clair.
Il n'est pas à jeter.
En 2 mots. Pour un jeu Ubisoft,
c'est peut-être un des meilleurs triple A Ubisoft de ces dernières années. Si on enlève un peu les Far Cry 6 peut-être. Mais je veux dire c'est pas un mauvais jeu, tu vois.
Ils sont capables
de faire des choses qui sont plutôt pas mal.
C'est une bonne précision, effectivement. Mais je me disais, c'est dans la manière dont le jeu est mis en avant. Encore une fois, c'est plus le marketing qui te le...
Oui, alors complètement.
Le fait vendre. Mais voilà, en tout cas, Skull and Bones, si vous ne l'avez pas acheté, attendez 4 ans.
Achetez-le pas, c'est tout.
Ouais, je crois. Il faut être clair.
attendez qu'il soit, il se passera certainement en free to play d'ici une année, je suis quasiment sûr.
Parce que qu'il ça, est en abonnement. Ah non, je sais pas si tu peux avoir avec l'Ubi Plus.
Il y a une démo, non? Moi, il me semblait y avait.
Possible.
Sur,
ouais,
sur Play, possible. En tout cas. Bah, j'ai lancé 10 minutes.
Ah ouais.
Je m'en rappelle plus.
Mais parce qu'il y a un point qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est t'as une boutique dans le jeu. Et tu peux acheter 200 000 trucs de cosmétiques, des voiles. Et puis autant, de nouveau, dans Sea of Thieves, les voiles, elles sont marrantes. Et puis tu dis, ah ouais, ça correspond des fois à des exploits épiques et tout. Puis là, c'est des gouvernails avec des joyaux. Puis je me suis dit, mais je m'en fous, en fait. J'ai pas du tout envie de passer du temps à devoir farmer des trucs pour récolter de l'argent ou dépenser mon argent direct pour ce genre de trucs, quoi.
Ah oui, puis Sea of Thieves, c'est du bonus. En fait, tu gagnes de l'argent pendant tes quêtes. Puis à la fin, bon, moi, qu'est-ce qu'on en fait de l'argent? Ben, t'achètes un sabre que tu trouves stylé, ouais. T'achètes un chapeau qui est rigolo. Ouais, et puis voilà, quoi. C'est pas, là, c'est pas un but en soi, quoi.
Là, tu vois que c'est le but en soi.
Le but, c'est de s'amuser. Ah, oui. Puis après, avec les pièces, bah, t'achètes des conneries, quoi.
Il y a un truc aussi que j'aimerais relever sur Skull and Bones, c'est la direction artistique. Qui, pour moi, j'en peux plus, quoi.
Oui.
J'en peux plus de ce moteur Assassin's Creed, en fait. Mais vraiment
générique,
c'est ouais, faites un truc mais lâchez-vous, quoi. En fait, un petit, bah voilà, typiquement Sea of Thieves, il y a un côté cartoonesque, mais du coup c'est ça marche, quoi. C'est beau, c'est sympa, il y a une patte. Là, c'est juste le vraiment le truc de base, en fait. Skull and Bones, c'est vraiment ok, j'ai vu ce jeu là 800 fois chez Ubisoft, et j'en peux plus, quoi. Et en fait, ils sont pas capables, même artistiquement, de faire autre chose que le canevas qu'ils ont depuis 15 ans 20 ans, quoi. Et ça, c'est assez problématique dans leur gestion de ce type de projet-là. Ouais. On sait qu'on aura encore un Assassin's Creed prochainement, là, leur gros truc, machin, un multiverse Assassin's Creed, je sais plus comment ça va s'appeler.
Jade,
il y a Projet Red, il y a Nexus.
Oui,
il y a
Nexus, quoi.
Enfin, y en a 15 000 derrière. J'ai obligé, voilà. Mais tu sais que tu vas te manger de nouveau ce moteur-là, quoi. Non, faites autre chose, quoi.
J'ai une question pour...
Oui, vous, là-bas.
Pour vous, Founet. Pourquoi vous jouez à des jeux pas bien comme ça? Alors que, quand même, vous pourriez être en train de jouer à Elden Ring. Par exemple.
Parce qu'il y a des gens dans cette rédaction qui, quand ils reçoivent un code, ils font le test, tu vois.
Mais il faut vous demander les bons codes. Ouais. Faites quelque chose.
Mais je me suis fait embarquer dans une embuscade. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, que je ne citerai pas, qui m'a dit « Mais viens, on demande des codes et puis on teste ensemble. » Puis après, il m'a dit « Ah, j'ai pas le temps. »
Je crois que j'ai fait ça aussi pour un jeu. Et on va pas en parler nickel, hein, mais j'ai pas du tout envie de le faire.
Après, il y a un petit côté curiosité aussi, parce que c'est quand même un projet qu'on en suit.
Oui, on est d'accord.
Depuis 10 ans, enfin pas 10 ans, mais je crois qu'il a été annoncé en 2017. Donc il y a un côté curiosité de savoir un peu bah, voilà, ce que c'est finalement, quoi.
Ouais.
Mais il joue aussi à Hercule Poirot, hein, je sais pas si
tu sais. Ouais, non, bien sûr.
Oui. Mais j'ai demandé un code. Et puis, à part ça, il faut aussi tester des jeux qui sont, à mon avis, pas bons, entre guillemets. Parce que si on teste tout le temps le même genre de jeu.
On est bien d'accord, tu sais les trucs que
tu mets des 19 sur 20 à tous les jeux.
Ouais, c'est ça, ouais. Ce jeu est incroyable. Révolution, 19 sur 20, paf, au suivant. ça marcherait dans Tower News, non?
Ouais, probablement, ouais, côté jeu. Mais d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a aussi une démo pour Tower News.
Ah, voilà, ça, c'est une bonne nouvelle.
Bien, ouais.
C'est une bonne nouvelle. Ok, donc non, mais effectivement, à part ça, blague à part, on avait envie d'y jouer à deux ou à trois, et puis on s'est dit, bon, on essaye, on regarde ce que ça vaut. Mais parce que moi, vraiment, j'étais curieux. J'avais vraiment envie de lui donner sa chance, parce que, encore une fois, jeu de pirate, ça m'intéressait bien. Et puis que, rien, ne serait-ce que pour l'aspect, comme tu dis, curiosité, Meteora, ou par l'aspect cas d'école, justement, de se dire, mais c'est quoi le produit qui va sortir?
C'est un peu comme s'il finissait Star Citizen, et puis... Vous pouvez voir ce que c'est.
Curiosité morbide un peu.
On va aller avec un bâton.
Ouais. Hein. Avec encore,
tout seul pour te dire « Ah, c'était quand même bien de la merde hein, !» au final.
Bon, ben voilà. Ok, super. On va pouvoir passer donc à la deuxième partie de ce podcast, juste après ce petit jingle. Le 4 janvier de cette année 2024, un jeune homme du nom de Willis Gibson, alias Blue Scotty, ou Scotty, je ne sais pas comment on dit, qui a 13 ans, a été reconnu comme étant celui qui a enfin, l'être humain qui aura enfin battu Tetris. Battu au sens où il est arrivé à tellement loin dans le jeu que le jeu s'est arrêté, frisé, parce que c'était pas prévu d'aller plus loin que ça. Donc il y a un côté un peu surhumain là derrière. J'avais vu un peu de temps avant aussi une vidéo sur YouTube où ils expliquaient les techniques qui sont utilisées pour les compétitions de Tetris. C'est complètement malade. Au début, c'est des compétitions, la technique où les gars ils jouent avec la croix directionnelle. Après, ils jouent en retournant la manette. Et puis, la dernière technique pour gagner, c'est de tapoter la manette. Enfin,
avec le front.
Ouais. Mais il y a un truc où il tapote la manette sur le genou. C'est complètement barge. Et tu vois comment des joueurs se sont vraiment ont poussé le jeu dans ses retranchements en disant, en fait, maintenant, on va prendre la manière qu'on nous a dit. Il faut jouer comme ça. On va renverser complètement les codes et on va y jouer d'une autre manière. Et ça, ça m'a inspiré une réflexion de se dire, mais qu'est-ce qui fait que dans un jeu, quand on joue à un jeu vidéo, il y a des moments où on a comme ça ce sentiment, cette espèce de glorification, on se dit, mais là, je viens de faire un truc qui est incroyable. J'ai un autre exemple en tête. Si j'avais bien préparé mon podcast, j'aurais retrouvé le nom de cet événement, mais il est très connu. C'est sur Street Fighter 4. Sauf erreur.
Evo.
Ouais, Evo, je crois que c'est à l'Evo. Et non, c'est
mais c'est encore un truc spécifique.
Mais je saurais plus dire qui joue, mais c'est quelqu'un de très connu, qui est en train de se faire bolosser par Ken, je crois. Il joue Chun-Li. Et au dernier moment, il lui reste mais vraiment rien de vie. Et il reprend le dessus et il démonte complètement le Ken. Et tu entends toute la salle qui hurle. Et chaque fois que je vois cette vidéo, ça me fiche des frissons. Je me dis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer devant moi. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, ce serait un truc qu'on pourrait discuter, c'est quoi vos moments de gloire? C'est quoi vos moments où vous vous êtes dit, tiens, là, je viens de faire un truc incroyable. Je termine avec un dernier exemple qui m'est arrivé à moi. On est fin 2011, Rayman Origins vient de sortir, et avec mon coloc, on s'est dit qu'on allait le poncer. Et il y a un soir, on arrivait presque au bout du jeu, on s'est dit, ouais, ce soir, on le termine. On a joué jusqu'à très tard le soir ou très tôt le matin, je ne dirais pas l'heure. Et on s'est acharné vraiment à l'ancienne, où chaque fois qu'il y en a un de nous deux qui mourait, on se passait la manette et puis on essayait. Et on a poncé le truc sur ce dernier coffre à pattes qui court super vite et il faut le rattraper. C'est vraiment tu dois connaître le niveau par cœur, tu dois vraiment enchaîner les sauts au millimètre près. On a fini, on a réussi, je pense que le soleil commençait à se lever, on a posé la manette. On n'a rien dit, on allait se coucher. Et le lendemain, pendant toute la journée, j'avais l'impression d'être un super héros. J'avais l'impression d'avoir fait un truc incroyable en me disant, personne sait ce que j'ai fait cette nuit. J'ai protégé Gotham City. Non, et moi, j'ai fini Rayman Origins à 100%. Cette nuit, c'était incroyable. Personne ne savait ce que c'était. Et quand je suis revenu, à la maison, mon coloc était là aussi, on en a parlé, puis on m'a dit, mais en fait, c'était incroyable. Et puis voilà, je me suis dit, mais ça, pendant une journée, ça m'a mis dans un état où j'avais l'impression d'avoir fait un truc incroyable. Ça reste un jeu vidéo, j'ai vraiment pas sauvé qui que ce soit, Gotham City va toujours pas bien, mais voilà, je me suis dit, ça, c'est un truc, ça, c'est un média quand même qui te fait vivre des trucs incroyables. Au niveau émotionnel, il y a un truc qui est, boah, la grosse vague que tu prends dans les dents. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez des anecdotes ou des moments comme ça de gloire auxquels vous pensez et qu'est-ce que ça vous a fait?
Est-ce que je fais le gaucher chiant direct comme ça c'est fait?
Vas-y, vas-y. Bon.
Parce que bon, moi j'avoue, moi je suis assez déterministe, hein, ouais. Donc je fais partie de ces gens qui croient que le mérite n'existe pas.
D'accord.
Plus exactement qu'en tout cas il est vachement surévalué dans nos sociétés.
Ouais, ouais, ouais.
Et que les choses dépendent quand même beaucoup plus du contexte en général. Et je trouve qu'un très bon exemple vidéoludique de ça, c'est les roguelikes.
Ouais, ouais.
Typiquement, tu finis une partie de The Binding of Isaac, mm-hmm. et t'as sué parce que bon, c'est très très dur quand même. Enfin, ça dépend des parties, mais enfin voilà, t'arrives, tu tues le dernier boss et t'es trop fier de toi.
Ouais.
Puis après, bah, t'y repenses et puis t'es là, ouais, mais en fait, j'aurais pas eu cet objet à ce moment-là. J'aurais eu un autre boss, une autre version de ce boss à ce moment-là. J'aurais pas fait toutes les parties d'avant qui m'ont permis d'apprendre tous les patterns et tous les machins. Donc, c'est pour nuancer le propos.
Ouais, ouais,
j'ai aussi des contre-exemples pour après, mais...
Non, mais c'est ça qui est intéressant. Justement, je me dis, qu'est-ce qui fait que le jeu est construit de telle manière que... C'est quoi qui nous percute en premier, justement?
Ah, mais première réaction, c'est... Oh, ouais. J'ai réussi, quoi. Puis après, tu réfléchis, puis t'es là, ouais, mais ça dépend, en fait, d'énormément de facteurs.
Ouais, c'est intéressant.
Bon, mais très spécifique au roguelike, parce qu'il y a beaucoup d'aléatoires, et que du coup, tu sais que la partie aurait pu être totalement différente, quoi.
Très bon point de vue.
Ouais, alors moi j'ai des exemples, quelques-uns, mais alors très rapidement, je pense que quand j'ai réussi à enchaîner les trois derniers boss de Elden Ring, j'ai eu un sentiment de victoire comme ça et un peu de un relâchement, tu vois, où tu te dis c'est bon quoi. j'ai réussi ce truc. Ouais. Je pensais pas être capable de le faire et je l'ai réussi. Donc ça c'était un peu c'était assez récent, donc enfin c'était l'année il y a 2 ans, donc ça va, c'est un truc que j'ai assez frais, c'est assez frais.
C'est toi qui avais envoyé une photo de générique.
Voilà, exactement. Ouais. Et il y a ça, puis il y a une autre. Alors j'ai une autre anecdote qui est beaucoup plus vieille, du coup, et c'est très rigolo. C'est vraiment, c'est vraiment absurde. Mais donc, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Black Hawk Down, inspiré du film Black Hawk Down, la chute du Faucon Noir.
Oui, de Ridley Scott.
Ouais,
enfin, je connais le film.
Ouais, moi aussi, le film.
Donc il y a un jeu.
Un FPS.
C'est un FPS, ouais, c'est un FPS. Et en fait, un été, je ne sais pas quelle année c'était, mais 2003, un truc comme ça, de 2004, 2003, en France, j'avais acheté un magazine, un joystick, et puis il y avait la galette de Black Hawk Down, avec, parce qu'il y avait des fois des jeux qui étaient donnés avec les magazines joystick à l'époque.
Ouais.
Et puis, et souvent, c'était des démos, mais là... En fait, je sais pas pourquoi, c'était le jeu entier, quoi. Et puis, j'ai rentré à la maison l'été, voilà, j'ai lancé ça. Et puis, en fait, j'ai commencé à jouer en ligne à Black Hawk Down, voilà. Et puis, je me suis retrouvé dans des équipes françaises, parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de Français qui jouaient à ça. Les Suisses, moi, je connaissais personne. J'avais genre 13 ans, 14 ans. C'était, voilà, pas forcément... j'étais pas très connecté comme maintenant on peut l'être. Et puis, je me suis retrouvé à jouer sur des serveurs français, avec des Français, et puis en ligne. Et puis, c'était un peu mes premières expériences sur TeamSpeak, et puis l'ancêtre de Discord, donc, et ce genre de choses. Mumble, à l'époque, plein de logiciels. Et du coup, j'étais entré dans une équipe qui s'appelait la Confrérie. On avait tous, avant notre pseudo, on avait un tag. Donc, c'était égal C égal ton pseudo. Et tout le monde avait ça au début. Donc, c'était vraiment les premières... Enfin, voilà, comme les teams d'e-sport à l'époque. Enfin, voilà, toutes les teams e-sport d'aujourd'hui. C'était ça aussi en 2003-2004. Et donc, il n'y avait rien d'officiel. Mais en fait, il y avait une dizaine de teams françaises en fait qui étaient constituées autour de ce jeu. Et en gros, il y a eu un peu les chefs de chaque équipe ont décidé de faire un tournoi, pour savoir quelle était la meilleure équipe. Et donc, on s'est entraîné. Je me souviens très bien, on s'est entraîné un peu constamment. On avait des techniques. Donc c'était en fait une sorte de capture de zone. Donc là, tu avais une map avec, c'était du 55, je crois, ou un truc comme ça. Et puis en gros, donc un FPS 55. Et puis, t'as une sorte de bâtiment central avec une zone. Et c'est l'équipe qui tient la zone le plus longtemps possible qui gagne la partie. Et il y avait plein de techniques où tu fais placer des mines à des endroits particuliers. Tu savais que quand t'arrivais là, tu faisais tel geste, tu lançais une grenade par telle fenêtre. Enfin, il y avait vraiment, c'était un entraînement. on faisait des petites soirées d'entraînement comme ça. C'était assez rigolo. Et du coup, on a gagné le championnat. Donc, on est champion de France sur Black Hawk Down, un truc complètement random. Et voilà, donc ça me fait toujours rigoler quand je pense à ça, parce que c'est... Enfin, voilà, il n'y avait rien du tout d'officiel. On n'a pas gagné de prix ou quoi que ce soit. Chacun jouait depuis chez lui. Enfin, c'était pas du tout... il n'y avait rien d'officiel, mais c'était très rigolo. Donc ça, c'est un achievement que je regarde derrière moi comme ça. Je me dis, c'était assez moi. Fun. C'est fun de me dire ça, quoi. Donc ouais, voilà. Une anecdote rigolote.
Mais du coup, des années plus tard, c'est un truc qui reste.
Alors après, c'était en équipe, donc c'est un peu peut-être le sentiment est différent que si c'est une réussite un peu personnelle. Mais peut-être sinon, il y a des moments en fait, c'est pas forcément des moments de gloire, mais il y a des moments où tu te dis ah ouais là, c'est ce que je viens de faire, c'était dingue. Ouais. Genre on a fait plein de parties de PUBG et puis il y a tout d'un coup des moments où t'es un peu en mode godlike et t'es là ok, je suis tout seul, tous mes coéquipiers sont morts, et je vais gagner cette partie et tu la gagnes et t'es là ah mais voilà, c'est ça que tu vois, tu réussis des trucs de fou et t'as ce côté adrénaline qui survient et puis et après tu lâches un peu ton clavier, ta souris, t'es là, ah ouais, ça c'était bien ce que je voulais faire.
Transpirer des cuisses.
Voilà, sinon je. Ouais. Pas plus d'anecdotes.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Ça me reviendra
si on champion français.
Ouais,
ouais, ouais, c'est plutôt classe.
Toi ?
Moi, j'ai plein de trucs. ça me fait marrer ton sujet. Je vais aller dans le désordre, mais il y a... Bon, les jeux From Software, quand tu bats un boss, quand tu le finis, il y a un truc vraiment... Ouais, je sais pas, tu le mets sur ton CV, quoi. J'ai fait ça, les gars. Ok, tu comprends pas ce que c'est, mais...
Voilà, mais c'est ça le truc que je disais aussi avant, c'est... Tu te dis, les autres gens autour de toi, ils savent pas ce que c'est. Ouais. Toi, tu sais, du coup, t'as l'impression d'avoir fait un truc qui est
incroyable. Ils ne pourront jamais comprendre.
Alors clairement, les initiés, et typiquement, je sais que... Bah, ça vous le retrouvez sur Internet, mais genre le dernier boss du DLC de Bloodborne... Mm-hmm. Quand tu l'as fait, mais t'as des flashbacks pendant 5 ans. Hein.
Tu
vois une plage, ça se passe. C'est le premier truc qui vient, quoi. Moi, dans un jeu, je vois une plage, je pense à ce boss. Hein.
Ouais, ouais. Ça marque. Hein.
Mais je l'ai battu. Il y a tous ces jeux-là où clairement ça marque. Un jeu comme ça qui m'avait vachement marqué, c'était. C'est assez récent. Returnal. Espèce de roguelike sur PS5. Où j'avais fini le jeu à un moment donné, à la fin j'étais vraiment rentré dans une sorte de tunnel et j'avais battu les derniers boss un peu. Je suis sorti de là, mais vraiment, comme on disait, je posais la manette, je flotte au-dessus du sol. C'était incroyable, j'arriverai plus jamais à le refaire. Ouais. C'était super dur aussi comme truc. Et puis aussi à l'ancienne, ça faisait beaucoup penser. Alors ça c'est un peu différent, mais les salles d'arcade. Mm-hmm. Comment elle s'appelait celle de Noche?
Oui, Las Vegas.
À Las Vegas. Quand on allait jouer à King of Fighters, alors je sais plus lequel c'était maintenant. Mm-hmm. Et alors on allait souvent entre nous, puis c'est vrai qu'on commençait à avoir on est d'accord, un niveau qui est risible par rapport à Internet maintenant. Ouais, ouais. Je pense que moi je n'arrive pas à battre quelqu'un sur Internet, les jeux de combat. Mais à l'époque, on se posait, puis les gens venaient, puis mettaient une pièce, puis jouaient contre toi. Mm-hmm. Puis tu les défonçais, puis tu disais rien, parce que sinon ils te pétaient la gueule probablement dans la vraie vie.
Ouais, ouais.
Il y a la poste infamie leader.
Exactement.
Mais tu soufflais du nez très fort, en mode.
Et puis, du coup, là, on maîtrisait quand même pas mal. Il y a une période où on a atteint un pic comme ça avec un pote, Solden, qui avait été là une fois au podcast. Ouais. Ça, c'était bon. Il y a un autre truc qui m'était venu. Destiny 2, PVP.
Ouais.
Et à un moment, j'avais aussi un pic de flow comme ça, où j'arrivais à premier dans les trucs. Puis, ah, c'était bon. Mais j'ai un très vieux souvenir, un peu comme ce que tu racontais dans vieux jeux, qui est pas vraiment un souvenir de gloire du gameplay lui-même, mais EverQuest.
Ah, ouais.
Donc c'est très, très vieux. Hein. Je sais plus à replacer, mais il y a au moins 20 ans, je pense. Au
minimum, je pense.
Quelque chose comme ça. Et donc c'est pour replacer au cas où c'est un MMO, c'est l'ancêtre de WoW quoi, en gros, un peu de choses près. Et puis le jeu prenait des plombs pour tout. Enfin WoW à côté c'est du fast-food quoi. Enfin mm-hmm. Tu devais faire des raids qui duraient des jours. Enfin c'était une catastrophe. Moi je faisais pas ces trucs là, mais du coup je faisais beaucoup de trades. J'allais dans une zone puis je faisais que d'acheter des trucs, les revendre, les acheter, les revendre, d'essayer de... Avec du loot. Hein. Ah, voilà. Ça vient de là. Hein. Non, mais d'ailleurs, c'est sur ma description de Sam Soledo. Et puis, je s'en rappelle. Et j'ai eu un moment absolument glorieux où, en rentrant de soirée, c'est moins glorieux, en rentrant de soirée, une heure tardive, je lance le jeu, je vais là, et là, j'arrive à trader l'objet ultime, qui est le meilleur truc qu'il y a dans tout le jeu,
ah ouais.
Qui était la Cloak of Flame. Personne ne saura ce que c'est. Et c'était absolument fabuleux. Là, j'avais gagné le jeu. Sans faire du tout. J'étais pas du tout capable de faire ce qu'il fallait pour obtenir l'objet par les moyens.
T'étais le top vendeur, quoi.
Alors, clairement, j'étais, et je me baladais avec ce truc, et c'était, et ça, je pense, je m'en rappellerai toute ma vie. C'est assez drôle, parce que c'est, ça a aucun sens, quoi. C'est absurde au possible.
C'est ça que je trouve intéressant. C'est qu'en fait, tous ces exemples-là, ils ont aucun sens. C'est-à-dire que,
oui, sorti du contexte,
c'était même presque risible. Mais en fait, quand tu l'as vécu, tu t'as dit avant, tu planes au-dessus du sol, puis il y a un côté comme ça, c'est difficile de le vivre au quotidien, je trouve, dans des...
Oui.
Ou de l'expliquer. Enfin,
ou de l'expliquer.
Comme tu dis, tu l'expliques aux gens, puis ils sont là, d'accord. J'ai rien compris, mais d'accord. T'as l'air content, c'est bien. Ça va, ouais.
Pas de brosser les dents maintenant.
C'est vrai que la vie quotidienne nous offre peu d'opportunités de vivre des choses autant intenses, autant facilement accessible, vite.
Oui, c'est ça, enfin, exactement. C'est bien sûr que tu peux t'épanouir et puis t'accomplir dans plein de domaines différents, mais là, quelque chose qui soit, entre guillemets, accessible, c'est particulier.
Ouais, clairement.
Mais c'est vrai que le côté collectif joue beaucoup, je trouve.
Ouais.
Enfin, que ce soit en coop. Enfin, j'ai noté typiquement Ember Knight, qui est un roguelike en coop.
Ouais.
Ou vraiment, quand on y joue avec le camarade Dinoink, que je resalue lui aussi.
Et bon, le camarade Dinoink.
Et où vraiment, on a battu le dernier boss et on était trop heureux en mode, bon, on l'a fait, quoi. Enfin, c'est fou. Ouais. Et tout seul derrière mon PC, j'aurais pas eu les mêmes sensations. Enfin, il y aurait eu un côté, comme tu dis, j'aurais été tout content. Puis bon, au bout d'un moment, je me serais dit, ouais, bon, voilà, j'ai fait un truc, ce serait bien. J'ai eu un success team. Mais voilà. Mais de le faire à plusieurs, enfin, c'est pareil quand on a fini Baldur's Gate 3. Mmh. Alors qu'eux, l'avaient chacun fini 3 fois, je crois. Mais enfin, le fait d'avoir fini ensemble, c'est pas la même chose.
Mmh. Ouais, c'est ça. Il y a un côté collectif aussi où tu peux connecter avec la personne qui a fini ça avec toi.
Tu le partages, du coup. C'est pas. Et puis après, il y a le PVP. Mmh. Et là, pour le coup, c'est génial. Enfin, moi, on joue des fois sur Twitch à Among Us.
Ouais.
Quand tu fais une masterclass, puis que tu baisses tout le monde, puis qu'à la fin t'as gagné en étant imposteur, puis que t'as, mais vous êtes con, quoi. Enfin, genre, j'ai dit des conneries depuis le début, puis vous êtes tous là, genre, ouais, bon, ça veut dire que ça va, il a l'air safe, et puis ouais. Là, il y a une, comment dire, il y a un truc, là encore, c'est collectif, ouais. Et puis, c'est malsain, mais il y a un côté, genre, je vous ai bien eu, quoi. Enfin,
clairement.
C'est pas malsain, hein.
Si t'en abuses pas, puis que le sentiment ne vient pas, mais ça pourrait être malsain, tu vois, ça pourrait créer des comportements toxiques et tout. Mais le côté que, ouais, genre, je vous ai bien eu, et puis c'était rigolo, puis on en refait une, et puis c'est pas grave, quoi. Mais tu ressens une fierté qui est pas la même, je trouve.
Ouais.
J'ai berné des humains.
Ouais. Tu vois,
Il y a un jeu qui exemplifie aussi un peu ce sentiment, je trouve, c'était StarCraft 2 en PVP, quand tu arrives à gagner, quand tu fais ta game, et puis tu gagnes contre un autre joueur et tout, et il y a vraiment un sentiment vraiment une bonne game, tu vois, le truc où c'est serré machin, où tu perds un peu, tu retournes la situation et tout, puis t'arrives à la gagner, et t'es là, enfin ouais, t'as transpiré, quoi.
C'était un peu le From Software de l'époque, hein, sur la NES. C'est tellement violent, StarCraft 2.
C'était hyper, enfin, vraiment, il y avait un côté où en fait, tu joues une partition, t'es sur ton clavier, tu sais ce que tu vas faire, tu sais comment tu dois le faire, t'as pas le droit à l'erreur si tu fais des micro-erreurs, et comme t'en fais, parce qu'on n'est pas des pro-gamers, en fait, ça rajoute une difficulté à la partie, et l'autre aussi, évidemment, fait des erreurs en face, mais du coup, c'est de gagner quand c'est comme ça, sur ce jeu-là, je trouve, il y avait un sentiment aussi assez fou, quoi.
J'ai pas le souvenir qu'on ait beaucoup gagné.
Non, justement, d'où le fait que le sentiment était très élevé. L'émotion était là, quoi.
Ça me fait penser, quand tu décris ça, typiquement à StarCraft, puis dans d'autres jeux, c'est un des trucs que je trouve qui augmente cet effet-là, c'est quand le jeu te permet d'être vraiment dans une sorte de flow, avec le gameplay est vraiment assez fluide pour que tu sois complètement dedans.
Ouais.
Bah, les formes de software sont spécialement bons pour ça. Je pense que c'est un peu leur marque de fabrique. Destiny 2 était très bon pour ça, je trouve. Je suis désolé. Cette fois, c'est bon, je l'ai fait. mais c'est vrai que ça fait un truc particulier. Plutôt qu'un jeu où peut-être c'est pénible, mais t'arrives à la fin. Moi, je sais qu'il y a des jeux où t'arrives à la fin, puis t'es un peu « Ok, c'est fait ».
J'en ai marre, j'arrête. Ouais. Enfin, comme Gary, qu'on salue, qui disait « J'ai fini Sekiro », là, t'arrêtes un peu parce que j'en ai ras-le-bol.
Mais je crois, en plus, lui, sur ce coup-là, il me semble... Il avait tout à fait compris le pattern du boss, il savait exactement ce qu'il fallait faire. C'était pas une question de compréhension du moment, mais plus d'exécution. Puis il a dit, mais en fait, le boss, il est pété, quoi. Ouais. Puis ça me rend fou. Et donc,
Mais du coup, c'est un peu ce que tu dis, c'est que tu t'arrêtes sans ce sentiment de satisfaction.
Ouais.
Mais alors je pensais plutôt qu'un truc où t'arrêtes pas, c'est trop dur, un truc où tu finis, mais vu que le jeu est pas si immersif ou te procure pas un flow comme ça.
Ouais.
Ouais, ok, j'ai fini, je le trace sur la liste, et puis...
Et après, il y a un aspect aussi, peut-être, qui peut t'intéresser, mais c'est l'aspect mental, genre de ta personnalité sur le moment.
Ouais.
Je veux dire, peut-être moi, je me souviens très bien que mon succès sur Elden Ring, il a été un peu sublimé parce que dans ma vie personnelle, j'étais pas forcément au top, tu vois.
Ouais.
Et donc, de réussir comme ça ce jeu-là, d'avoir réussi à battre le boss final et puis de voir ce générique de fin, ça m'a amené une sorte de satisfaction comme ça et de, je sais pas comment dire, d'émotion un peu particulière là-dessus. Céleste aussi fait ça, quoi, aussi, je trouve.
De réussir un challenge, quoi, que tu
te C'est ça, en fait, de réussir ce challenge, donc ça dépend un peu, il n'y a pas forcément... que de la difficulté du jeu en tant que tel, parce que le jeu est compliqué, alors c'est ok, l'émotion d'avoir réussi ce jeu, enfin d'avoir réussi à finir le jeu est peut-être sublimée, mais aussi n'importe quel petit jeu facile, si t'es pas bien dans ta vie et que t'arrives à le faire, tu peux avoir cette émotion aussi.
Donc, qui est un peu exacerbée, parce que à ce moment-là, t'as besoin d'un...
Ouais.
de quelque chose qui va mieux que le reste. Ouais, ouais.
Ouais.
Alors, Taiki, je sais que oui, mais est-ce que vous, Meteora et Plisken, vous aviez fréquenté Mousekiller à Neuchâtel?
C'était déjà quoi? C'était un cybercafé?
C'est le premier cybercafé où tu pouvais jouer en réseau.
Je me souviens de Shogun.
Ouais, ben Shogun, c'est. Alors, historiquement, Shogun, c'est un ancien employé de Mousekiller qui a quitté Mousekiller et qui a ouvert Shogun de l'autre côté de la rue.
Ah, ok.
Alors, non, moi, j'ai fait une fois une soirée cybercafé, mais c'était au Val-de-Ru, je crois.
Ah ouais, ok.
Non, moi, j'ai pas fréquenté ça, non.
Ok. Parce que j'ai pensé là, juste maintenant, il y avait eu un tournoi. Je sais pas, peut-être tu l'avais fait, toi, Taiki. C'est un tournoi Star Wars Racer. Donc le jeu de
course
de
ouais. Ouh, je sais plus, mais ça je ferai alors.
Et je me souviens qu'avec Mush et nos frangins respectifs, on avait poncé le jeu à la maison, on s'était entraîné comme des tarés, on était arrivé au tournoi, on avait écrasé tout le monde. C'était une époque où on parlait même pas du tout d'e-sport, enfin, c'était même pas le jeu compétitif, c'était un peu rigolo. Mais là aussi, t'avais l'impression, donc, ensemble, on avait une équipe, on avait réalisé un truc, quoi. Puis on est reparti avec nos lots sous le bras.
Et les gens dans le bus, ils vous respectaient.
C'est clair.
Ils ont volé nos trucs. Ouais. Mais c'est ça, c'est un moment donné où je sais pas, moi j'étais pas champion de foot ou de basket ou comme ça, mais là tout d'un coup t'as un truc où tu dis ben là nous on a réussi quoi, mais l'équipe des losers là voilà, c'est nous qui avons réussi, qui avons écrasé tout le monde. Donc ça, c'est, je pense qu'effectivement le collectif et le moment où ça arrive dans ta vie, ça fait beaucoup. Et ça je trouve, en tout cas le jeu vidéo, c'est un truc que ça permet, que d'autres médias permettent pas vraiment.
Et une question, est-ce que t'as eu ce sentiment, par exemple, dans des différents événements dans lesquels t'es allé, genre les salons ou comme ça, où tout d'un coup t'es face à un développeur et puis qui te présente la démo de son jeu et il te dit ouais, il y a jamais personne qui a réussi à finir la démo et toi tu la termines, ouais. Tu vois, devant lui quoi, et puis, tu vois, oui. Le mec est à genoux, je sais pas si t'as déjà eu.
Oui, oui, mais c'est arrivé quelques fois aussi où le mec dit waouh, vous êtes le premier à finir la démo ou arriver jusque là. Je me méfie toujours un petit peu,
bien sûr,
mais c'est vrai que quand il te l'a dit, oui, c'est vrai.
Écoutez, tu te mords un peu la joue, puis là, ouais, bah, moi, je suis trop fort en fait.
Je me souviens particulièrement du sentiment inverse.
Ouais.
C'est aussi que genre t'arrives pas, oui. Alors que c'est hyper simple, tu vois. Et le mec se fout de ta gueule à côté de toi, vous êtes un peu nul.
Il y a un enfant de 8 ans qui vient de la finir.
Il y avait ça, et puis il y avait une autre expérience qui était très... Alors là, c'est pour le coup le jeu qui était un problème. C'était Zombie U, de Ubisoft aussi, où les mecs étaient hyper fiers qu'aucun journaliste et aucune personne qui était venue tester la démo sur le stand presse de Ubisoft n'ait réussi à la finir, tu vois. Et donc les mecs étaient là, ouais, c'est hyper, du coup c'est hyper bien, notre jeu il est hyper bien parce que personne n'a réussi à le finir. Et moi j'étais un peu là, ouais, mais en fait pas si bien que ça en fait, finalement, tu vois.
Il est peut-être juste mal branlé votre jeu.
Ouais, c'est peut-être qu'il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui réussissent, tu vois. Donc ouais, les mecs étaient hyper fiers que personne n'arrivait à finir leur jeu.
Voilà. Ouais, c'est vrai que ça c'est un peu... Ça m'arrive aussi, dans ces salons-là où tu galères. Moi, je me souviens d'un... C'est un jeu Warhammer où je comprenais rien du tout. Puis je regardais ma montre. Puis, c'est quand ça se termine. puis le gars, il vient t'expliquer trois fois. Mais, ah non, un autre exemple auquel je pensais qui est encore plus parlant, c'est quand on a fait la Gamescom, c'était Assassin's Creed Black Flag, justement, je crois. Enfin, je sais plus, un des Assassin's Creed. Et ils m'ont filé la manette. Et puis moi, je joue toujours avec la vue inversée. Et donc, du coup, là, je pouvais pas jouer parce que c'était la démo, et du coup, j'arrivais à rien. Du coup, j'avais vraiment l'impression, tu sais, d'avoir 70 ans, et puis
de jouer avec des moufles, quoi.
Et de courir contre le mur. Et le gars, il me disait, non, mais il faut appuyer sur, je sais jouer, hein, c'est bon, ça va.
Je suis pas complètement con, c'est juste, c'est le contraire de d'habitude,
quoi. Enfin, ouais.
L'horreur.
Mais toi, t'avais quand même des exemples, du coup, tu disais.
Ouais, mais après, bon, il y a des exemples à l'ancienne, genre les jeux de NES ou de Super NES.
Ouais,
mais ça rejoint un peu ce que tu disais sur ton collègue Gary, qu'on salue. mais genre les Tortues Ninja, quoi.
Ah ouais.
Ou quand tu finis le niveau du barrage, t'es ah bon, bah, j'ai gagné, quoi. Enfin, ouais, c'est bon. De toute façon, ma maman, elle veut que j'éteigne la console, et puis on va dire que j'ai gagné, quoi. Enfin, de toute façon, je le passe jamais, là, j'ai passé, c'est bon, t'as la satisfaction comme si t'avais fini le jeu.
Tu deviens une espèce de légende à l'école. Il paraît qu'il y a un mec qui a fini le niveau du barrage.
T'es là, vous savez qu'il y a des niveaux après, en fait. Bon, je ne les ai pas fait parce que j'ai pas le temps, mais enfin, ça existe. Mais non, mais autrement, il y a vraiment. Moi, c'est vrai, quand j'y repense, les gros jeux que j'ai finis et qui m'ont apporté énormément de satisfaction, c'était hyper tempéré par le fait que c'était des fins douces amères.
Ah.
Genre, moi, je suis très fan des Metal Gear.
Mm-hmm.
Tu finis un Metal Gear, tu sautes de joie. Enfin, t'es content.
Ouais, ouais.
Puis il y a la cinématique de fin. Puis t'arrives à la fin, puis t'es là, ouais. Bah, la vie, c'est de la merde, en fait.
De merde.
Et puis, genre, Final Fantasy VII. Alors que j'ai fini, j'ai pas réussi à buter l'arme dans le désert, parce que chaque fois, elle virait mes deux personnages qui avaient les matériaux. Enfin, c'est, la vie, c'est compliqué.
D'accord.
Mais j'avais réussi à battre l'arme sous l'eau, j'avais réussi à battre le dernier boss et tout. Et pareil, quoi, t'arrives à la fin, puis c'est 20 000 ans après, et puis, bon, bah, la Terre se remet gentiment des... Ouais, c'est pas fou. On a sauvé le monde, d'accord, mais bon, les affaires vont mal, quoi. Et, ouais. Le côté où ça peut être très tempéré, en fait, parce que le message du jeu, ce qui est pas inintéressant, hein, ouais, ouais. Mais où du coup, bon, bah, tu sautes pas de joie pendant une demi-heure, quoi.
Ouais, je reviens. T'as pas le même goût à la fin.
Ouais, t'es quand même content, mais c'est tempéré, quoi. Mm-hmm. C'est doux, amer.
Ouais. C'est une belle conclusion, je pense. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes croustillantes à raconter de ce type-là, ou est-ce que tout vaut votre. Tableau de chasse et...
Non,
il faut en garder un peu. Il faut être.
Ouais, ouais, ouais. Je vous dirai quand j'aurai fini Sekiro. Ouais,
d'accord. Bon. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce petit moment d'échange. C'était très sympa. Donc, on va rappeler les jeux qu'on a abordés dans ce podcast. C'était donc Tower News,
News Tower.
Sekiro.
Sous-titre, s'il vous plaît.
Sekiro's Lives.
Shadows of the Things.
Et les ombres meurent deux fois, ou l'ombre meurt.
Shadows of the Wives. Très bien.
Artful Escape.
Voilà, merci. Ouais. Artful Escape. Et Hercule Poirot, London Case et Skull and Bones, que du coup, on ne vous recommande pas tout de suite, voire pas du tout. À voir. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous, derrière le micro, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans environ un mois à peu près pour le prochain épisode. Dans deux semaines approximativement, vous allez retrouver l'autre podcast en alternance qui est Une Génération de Retard. Et puis, évidemment, sur semperludo.com, vous allez pouvoir retrouver toutes sortes d'articles et de tests qu'on publie régulièrement. Vous pouvez suivre nos éventuels lives sur la chaîne Twitch Gaming Fed, là où on va aussi pouvoir te retrouver, Météora.
Oui.
Pré-start toutes les semaines, tous les mardis soirs, à 21h.
Exactement.
Ou,
avec Gary, que je salue. Salut.
Vous allez chaque semaine présenter un jeu.
Exactement, ouais.
Avec un angle critique.
Exactement.
Et puis ensuite vos articles qu'on va retrouver sur critical-hits.ch.
Ouais.
Juste.
Ouais. Toutes les vidéos sont uploadées sur YouTube aussi et elles sont mises sur notre site. Donc vous pouvez aller revoir les émissions des derniers jeux. La semaine passée, on a fait Balatro.
Ouais.
Très très bon jeu.
Oui. Enfin, moi, je supporte pas les jeux de cartes, au bout d'un moment, j'en
Non, non, c'est le monde, mais.
Non, oui, non, c'est un problème de jeux de cartes, c'est cool. Gary, que je salue, est vraiment.
Et Dynamique, qu'on salue aussi, qu'on a parlé.
Il adore ce genre de jeu et il m'en présente un par semaine quasiment.
Slay the Spire.
Mais voilà, Slay the Spire.
Donc, du coup,
c'était le jeu de la semaine passée.
On peut vous retrouver chaque semaine. Super, merci à toi d'être passé. Nous avoir accueillis
plus que passé.
Je passe chez moi
dans ta cuisine, c'est super. Merci Plisken.
Mais il y a pas de quoi.
Merci Taiki.
De rien.
Et Maté d'une 2.
Oui,
c'est ma petite pub gratuite.
C'est un petit film indépendant.
Tu as peut-être entendu parler, mais
on pouvait faire des précommandes, je crois, crowdfunding.
J'arrête de lutter. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, quel que soit le moment où vous nous écoutiez. À bientôt et suivez-nous, n'hésitez pas sur toutes les plateformes, Twitter, Instagram et Facebook. Et vous pouvez aussi, ce podcast, vous le retrouvez sur toutes les plateformes que j'oublie de dire à chaque fois. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.
Bisous.